Oh, voyez-vous ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite scène de mon gorgon?
Ah, ça veut dire qu'on est piégé, chacun pour sa porte.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjoui que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour!
Bonsoir.
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 Ah d'accord.
Eh oui.
T'as dû couper mon micro c'est parce que je suis toujours pas là.
Non, si vous êtes là, vous êtes là.
Je m'entends pas.
Comment vous allez, les amis?
Fatigué mais content.
Ça va.
Halloween s'est bien passé.
C'était pas très effrayant, je suis un peu déçu.
Non.
Moi je l'ai pas trop vu passer. Et toi ça va?
Oui, nous on s'est lancé, on a la ville là où on habite avait décidé de faire une chasse à rien en plus.
C'était plus une course d'orientation.
Des fantômes, vous chassiez des fantômes.
Une course d'orientation avec des zombies.
Il y avait des zombies. Et en fait, il s'avère que les zombies avaient au maximum 17 ans, mais là en soi rien de grave. Mmh. Les zombies souriaient et se faisaient beaucoup trop passer pour des participants. Ce qui fait qu'en fait, ça ne faisait pas peur.
Non. Et puis en plus, ils nous avaient pas dit qu'on avait de la vie et tout. Moi, la moitié des règles, genre il y a un moment, moi je fonce sur un zombie.
Très mal vendu.
Je fonce sur un zombie pour passer ma carte, pour valider...
Passer ta carte.
Ouais, c'était comme une course d'orientation.
Des petites bornes.
Du coup, il fallait que je bip à la borne pour valider que j'étais passé là. Donc moi, je vois un zombie qui me fonce dessus. Qu'est-ce que je fais? Je continue.
Vu que le zombie ne fait pas peur.
Et le zombie m'arrête et me dit « Je te pique de la vie !» Et moi, je me dis « Qu'est-ce qu'il parle ?»
T'étais pas au courant.
J'ai pas de vie, quoi. Je n'avais que la moitié des informations. Du coup, j'ai pas pu vraiment jouer au jeu.
Mais en vrai, c'était pas mal. L'année prochaine, je pense que si c'est réédité, ça sera beaucoup mieux. Parce que voilà, c'était la première année. Laissons le bénéfice de la...
Des doutes aux doutes.
De l'optimisme.
De la nouveauté.
L'espoir.
Et laissons-leur de l'espoir. Ce mois-ci, on va parler de The Midnight Club, une série qui fait très peur sur...
Netflix.
Sur Netflix, pardon.
The Watcher, le sujet du mois.
On va parler de The Watcher, le sujet du mois. Et on va parler de Orelsan, montre jamais ça à personne, partie 2, sur Prime Video.
Je suis la co-présentatrice ce soir.
Oui.
Elle fait plutôt les bacs, en fait. Mais avant, on va
Mais
faire
avant...
un peu d'actu.
Je vais faire des bacs.
Mathilde, je te laisse commencer. Tu as une information à nous partager.
Une information ultra importante. Pas du tout. Pas du tout. Ah, j'ai deux informations. Deux choses dans l'actu, tiens. La
ne
première,
pas,
c'est
attends.
L'annulation de Fat... Fight.
Fate.
Fight.
Fate.
Fight.
Fat.
Bon, c'est l'annulation de Winx Saga. Donc la saison 2 était sortie il y a 2 mois. Non, le mois dernier,
c'est
attends.
Septembre 2022.
Ouais, en septembre, et déjà, ça a été annulé.
C'est l'anniversaire de ma sœur.
Bah voilà.
Oh, bam.
Bah déjà, ça a été annulé. Au bout de 2 saisons, après un cliffhanger qui donnait très envie d'avoir la suite, il n'y aura jamais de suite. Est-ce que je suis triste? Pas vraiment, mais est-ce que ça m'énerve? Oui, parce que je trouve ça vraiment super méchant de donner... genre, ils ont fait vraiment beaucoup de pubs autour de la série Winx quand elle est sortie. Ils ont voulu fédérer et tout. Et du coup, 2 saisons plus tard, ils t'annulent le truc alors que forcément, il y a une communauté de fans. Donc, il y a déjà une pétition qui tourne pour...
Oui,
enfin,
les pétitions,
série,
on a vu ce que ça donne. Hein,
je sais que ça va pas fonctionner. Mais voilà, je trouve que c'est pas cool.
Mais je pense que c'est parce que tu t'illusionnes. Ça reste des entreprises qui ont besoin de gagner de l'argent. Ils considèrent que ça rapporte pas assez d'argent, ça s'arrête.
Ouais, mais non.
Ils
le...
s'en fichent des communautés, c'est
ouais,
pas
mais
problème.
C'est de la culture. Moi, je suis pas vraiment d'accord. En littérature, ça fonctionne. Il y a des gens
c'est...
qui.
Oui, mais c'est pas de la littérature.
C'est pas Netflix qui fait la littérature.
Ouais, mais tu vois. Quand un livre... Enfin, les auteurs n'arrêtent pas d'écrire le livre en plein milieu en disant « Bon, on en a marre, on verra jamais la suite. »
Oui, bah du coup, en plus, c'est des business models différents.
Ouais, mais moi, ça m'embête, hein, ça m'embrouille, ça m'embête. La deuxième info...
En plus, j'ai l'impression que c'est particulièrement... Moi, ça m'arrive jamais, tu vois. Toi, il y en a beaucoup de séries que tu regardes où ça te fait ça. Alors peut-être que tu regardes beaucoup.
Je regarde beaucoup de trucs.
Beaucoup de séries nulles.
Après...
Du coup, je rigole. Pardon.
Bah, dis ça pour The OA, par exemple, qui a été annulé.
C'est
et
vrai,
aussi...
qui était bien.
Il y a plein de séries qui ont été annulées et pas
Wings,
que des trucs
pas
nuls.
Si horrible,
tu te rappelles de la série que t'avais adorée avec les jeunes? Des jeunes
Elite
dans un lycée?
Ah non.
Qui a tué ça? Non, Elite, ça marche
non
bien.
C'était pas ça. C'était la super
non,
série qui avait une saison.
C'était The quelque chose.
Et ça a été annulé en plein
The
milieu.
Non, c'était The.
Il y a des jeunes dans un lycée.
C'était trop bien.
C'était pas The Community, mais c'était pas loin.
Bah, la série aussi qui a été annulée, qui était trop bien, qui avait eu une saison sur un remake de Sa Majesté des Mouches.
Ah, moi, je pensais que tu parlais de ça.
Bah, il y a celle-là, mais il y en avait une autre aussi avec.
Ah, l'autre, c'était dans les années 90, oui, qui était trop cool.
Bah, tu vois, des séries pareilles, vraiment des super lancements qui ont quand même été annulés.
Dirk Gently.
Annulé?
Dirk Gently annulé à la saison 2.
Bah, voilà.
Non,
bah, tu vois.
Sur un cliffhanger de fou.
Tu vois que ça t'arrive aussi.
C'est vrai.
Et est-ce que c'est pas triste?
Bah,
est-ce
si
que t'as pas l'impression de t'être attaché à des choses?
J'ai participé à des pétitions 3 ans après qu'elles aient été faites.
J'ai fait encore des manifestations.
Tout seul dans ma rue avec mon corgi.
Mais je trouve qu'en plus que Netflix est assez peu élégant en général. Quand ça annule, ça annule. Alors que par exemple, j'ai vu cette semaine que Warner Bros. Discovery annulait la série qui s'appelait... Ah, la fille là, on avait regardé...
Stargirl. Ah
la
oui,
série,
et d'ailleurs...
La série Stargirl s'annule. Mais les scénaristes ont été prévenus en amont pour donner une vraie fin. Donc même si l'annulation est un peu précipitée, eh ben il y a une vraie fin. Netflix, c'est genre... Ah bah c'est fini, bah y a plus.
Tant pis.
Tant
ouais,
pis pour
c'est
la suite.
Et même je trouve ça un peu oui violent pour les acteurs aussi qui se sont, enfin tu vois, c'est genre ils font et puis boum, ils font plus, tu vois.
Oui.
Et en plus vraiment moi si ma série, enfin en tant qu'actrice ou acteur, ta série est annulée en plein milieu, tu te remets aussi un peu en question quoi, désolé, mais quand les rôles principaux doivent se dire est-ce que j'y suis pas pour quelque chose quoi.
Oui, c'est clair.
Est-ce que vous voulez l'autre info qui n'est pas vraiment mieux et plutôt aussi pas ouf? Bon, on a appris, on est le 2 novembre parce qu'on est un peu en retard, et je crois que c'était hier ou avant-hier que Kit Connor, qui est Nick dans Heartstopper, donc l'acteur a été un peu, clairement a été forcé par sa communauté, par la communauté de fans de Heartstopper, de faire son coming out parce qu'il était accusé de... Comment on dit déjà? Je n'ai plus le mot à chaque fois.
De queerbaiting, c'est ça?
Ouais, je crois que c'est ça. En gros, c'est comme du greenwashing, quoi, mais en version queer. Je ne sais même pas comment expliquer.
Je vais essayer de le faire, mais je vais galérer. C'est en gros quand tu entretiens le flou sur ta sexualité ou ton genre, où tu fais croire que tu appartiens à la communauté LGBT
pour gagner des choses, tu
voilà
vois,
parce que ça redore ton image, ou alors ça te permet d'avoir des opportunités pro.
Voilà. Là, par exemple, il partait du principe que Kit faisait peut-être pas partie de la communauté, mais qu'il jouait un rôle de Nick dans la série et même dans le comics est bisexuel, et du coup il se disait en gros il se fait passer pour quelqu'un de la communauté, tout le monde l'aime, tout le monde ça lui apporte une notoriété,
c'est un acteur,
ça fait lui quelque
cas,
chose
même
de good.
Si il était juste hétéro, qu'est-ce que ça peut leur foutre?
Moi je suis vraiment dans ce truc là aussi. Il y a un peu la même chose avec le chanteur Harry Styles, où en gros on lui dit que il sert beaucoup de codes de la communauté, genre il s'habille de façon... Enfin, je sais même pas, tu vois, il met du vernis, ou alors il est un peu extravagant, ou des trucs comme ça. Et du coup, il y a plein de gens qui disent qu'il prend des codes, en fait, qui sont issus de la communauté.
C'est un super allié à assumer aussi.
Ouais, qui sont issus de la communauté, mais que du coup, lui n'en fait pas partie, donc il devrait pas le faire. Et moi, je suis pas vraiment d'accord, justement, parce que je trouve que oui, du moment où ces gens-là aident la communauté et lui ordonne de la visibilité, je vois pas pourquoi on devrait... On s'en fout, en fait, de qui ils sont, de quoi ils sont, ou de... Et je trouve ça presque, enfin vraiment, je suis un peu déçue en fait de ce truc-là, et j'ai été trop choquée que bah du coup Kit Connor soit, enfin se sente, en tout cas il a pas été obligé en soi, mais se sente obligé de devoir faire son coming out bah officiellement sur Twitter partout pour dire bah oui en fait je suis bisexuelle, foutez-moi la paix, et voilà quoi. Surtout après qu'il a quand même joué le rôle de Nick Nelson dans Heartstopper, qui est quand même, enfin la série montre qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut laisser les gens être qui ils sont, qu'on s'en fout de mettre des étiquettes et tout ça. Et en gros, que les gens aient vu cette série et se retournent contre lui, enfin j'ai trouvé ça vraiment violent. Et je suis vraiment déçue en fait, c'est méga décevant. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule du moment, mais je trouve ça vraiment pathétique en fait. Les gens ont toujours besoin de savoir... des choses personnelles sur les autres. Je vois pas en quoi... Enfin, ça la regarde absolument pas. C'est un bon acteur. Je crois que c'est le principal, en fait, vu que c'est ce qu'on lui demande. Il joue dans une série vraiment cool. Il a super bien joué son rôle. J'espère qu'il va avoir des récompenses pour ça, parce que je crois qu'en plus, ils ont été nommés pour des prix en Angleterre, là. Ils ont reçu des trucs, je sais plus trop quoi.
Ça devrait arriver début d'année prochaine.
Ouais, et ils ont été nommés pour des trucs, et j'espère qu'ils seront récompensés pour leur travail d'acteur et d'acting, et le reste, on s'en fout, quoi. Voilà.
C'est vrai.
Et oui. J'ai une actu dont je vous ai gardé le secret, qui est un peu plus légère, parce que j'ai envie de savoir votre réaction en direct. Moi, elle ne me concerne pas, mais vous, vous allez réagir, c'est certain. C'est sorti le 29 octobre dernier, Netflix a annoncé que The Witcher revenait pour une saison 4.
Oui.
Bonne nouvelle. Mais que Henry Cavill rendait son épée.
Quoi ?
Et la donnait à Liam Hemsworth.
Qui ?
Qui va interpréter Geralt.
Qui ?
C'est le frère de Chris.
De Chris Hemsworth.
Quoi ? C'est qui ?
À partir de la saison 4.
Liam Hemsworth.
Non. C'est son frère qui joue le gars dans Hunger Games, principalement.
Mais c'est pas la même personne ?
Pas du tout. C'est juste un grand gaillard, quoi, c'est tout. C'est la seule ressemblance physique qu'il y a avec Henry Cavill. Déjà, je sais même pas s'ils ont le même âge.
Mais...
Après, dans la série, c'est pas forcément gênant, ça s'étale, mais...
Après, comme ça, là, tu vois... Il y en a un qui est blond, l'autre qui est brun. Non, mais quand même...
Il y en a un qui est blond.
Vraiment, ça, ça se...
Après, il y a une perruque, donc du coup...
Oui, clairement, ça, on s'en fout. Il y a vraiment les cheveux blancs.
Mais je trouve qu'il dégage pas la même chose, quoi. Il dégage vraiment pas le même truc.
Alors, du coup, ils vont juste changer d'acteur ? Et ça
pas.
Va continuer.
J'en sais rien. Je sais pas si ça va être en mode soit ça va être en mode Doctor Who, régénération, ou alors ça va être comme James Bond et un peu genre on raconte d'autres histoires qui sont totalement déconnectées de la saison 3. Je ne sais pas du tout. Enfin, on sait rien. Pour l'instant, vraiment, j'ai dit il y a 3 jours Netflix a officialisé la saison 4 et en disant un changement d'acteur. Et pareil, rien d'officiel, mais c'est fort probable que Henry Cavill doivent quitter la série parce que il a été officialisé qu'il reviendrait dans le rôle de Superman dans un très probable Man of Steel 2. Donc,
il peut faire deux choses différentes.
Bah, ça prend trop de temps.
Je sais pas. Visiblement.
Franchement, pour ce que c'était que Man of Steel.
Ouais, mais ça fait des années que les gens réclament ce qu'ils reviennent, quoi.
Mmh. Bon. Déjà, comment je suis passée à côté de cette info. J'ai passé ma journée
mais
sur Twitter.
Tu pas les métiers.
C'est ouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et petit 2, bah non.
Bof.
J'aime pas le principe de juste changer d'acteur, mais il y a des séries dans lesquelles ça m'a grave plu. J'avais parlé de Crazy Ex-Girlfriend, où ils ont fait
c'était
pareil.
C'était un second rôle.
Non, c'était l'autre rôle masculin principal.
Oui, mais c'est pas l'actrice principale qu'on a changée.
Et du coup, ils avaient changé pour un acteur que j'adore.
Bah,
et
en
du
plus,
coup, ça me gênait pas trop.
Dans The Office, quand ils ont remplacé Michael Scott, tout le monde était.
Après, ils ont pas remplacé son personnage.
Ouais, c'était ça. C'était Skellar Astin qui avait pris le rôle qui jouait dans Zoé Explorina.
Ça se trouve, il est mort. C'est ça l'explication.
Non, il était pas mort, c'est juste que.
Non, Henri Cavill.
Mais non, il est mort.
Non, s'il va jouer super.
Mais du coup, des fois, ça marche, mais il faut une explication. Je sais que dans Crazy Ex-Girlfriend, en fait, c'est parce que la fille, elle a un peu des. Elle est un peu.
Ouais, mais là, c'est une série, ils ont peut-être plus de liberté, parce que le problème dans The Witcher, c'est que c'est quand même. Enfin, ça suit les livres, quoi.
Oui, mais non, mais c'est ce que je te dis. Et puis en plus, c'est que la série parle d'une jeune femme qui est un peu. Elle a un peu des. elle a des pas troubles. Des pathologies, mais elle a des troubles. Et du coup, bon, en fait, le moment
dans
où,
The Witcher,
le moment en fait, c'est que elle le voit aller. Et après, elle le voit et en fait, elle le voit vraiment. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu genre sa vision était faussée de lui avant et finalement, elle finit par le voir le vrai lui. Enfin, c'est amusant, mais voilà, ils l'ont expliqué comme ça. Que là, dans The Witcher, je vois pas trop comment on passe de un perso à un autre perso.
Moi,
mais...
je pense qu'il y aura rien.
Ouais, je pense aussi vu
le. Ça se trouve, ils vont tellement bien le maquiller et tout, parce que c'est quand même, si tu regardes les photos, c'est quand même, ils ont l'air d'avoir à peu près la même taille, la même carrure, et ils sont tous les deux des yeux bleus. Ça se trouve, ils vont juste leur mettre
pareil,
des lentilles. Oui, mais c'est ce que je te dis. Ça se trouve, tu le maquilles et tout, et.
Oui, mais je veux dire au niveau du visage, il dégage pas la même chose, parce que il a le même sens rasé. C'est un minet, quoi. On dirait qu'il a 25 ans. On dirait qu'à ville rasé, il fait 40 ans, quoi.
Ouais, bah à voir.
Après,
bah,
peut-être
de toute
que
façon,
du coup, ils
attends.
Vont reprendre plutôt sur la partie de The Witcher où il est plus jeune. C'est
mais
possible,
de toute façon, là, c'était la saison 4, il y aura Henri Cavill. Parce
non,
qu'il
saison
est...
3, il y
aura
Henri
saison...
Cavill.
La saison 3, il y aura Henri Cavill parce qu'ils étaient déjà en train de la filmer en septembre. Enfin, c'était en cours de tournage et tout ça. Donc, ça sera que pour la prochaine saison. Donc, on a le temps d'oublier.
Ah oh bah dis donc c'est fou.
Ah ouais,
bah,
j'avais oublié.
J'étais pas au courant.
Voilà.
Ah oui, non,
c'était ma théorie.
Que ça va changer, tu veux dire.
Ouais. Et puis tu rallumeras la télé, tu vas oh, mais c'est pas le même. Et hop, voilà. Et c'est tout.
Quel jeu d'acteur.
Ah oh, oui, bah c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que je travaille dans une librairie.
C'est parti.
C'est à cause de mon acting.
On commence les séries... Qu'est-ce qu'il y a ?
Bah oui, laisse-moi commencer.
On commence les séries par une formidable série que Mathilde a regardée.
Non mais en fait, je l'ai mise et après... Là, je suis en train de me demander est-ce que je vais en parler.
Ah bah trop tard, c'est dans le
Et compte. La réponse, c'est bah oui et non. Enfin, du coup, j'ai regardé la saison 2 de la saga des Winx.
Fat.
La saga Winx, la saison 2 qui faisait 7 épisodes de 50 minutes qui est sortie le 16 septembre sur Netflix.
Ah bah c'est le jour de l'anniversaire.
C'est toujours le même jour, c'est incroyable.
Oui, c'est incroyable.
Donc, bon, alors le début était pas ouf. Finalement, ça s'est passé... Enfin, le problème, c'est que je me rappelais plus ce qui s'était passé dans la saison 1. Finalement, je m'en suis rappelée. Ça s'arrange à mesure que le temps passe. Et quoi dire de plus, vu que c'est annulé de toute façon. Le cliffhanger était cool, j'avais envie de voir la suite, il n'y aura pas de suite.
Ah oui.
Bah voilà quoi.
Bah tu peux dire que t'es déçu qu'il y ait un cliffhanger pour qu'il n'y ait pas de suite. C'est...
Ouais, je suis déçu qu'il y ait un cliffhanger pour que j'ai pas de suite parce qu'en plus l'héroïne elle s'est retrouvée dans un espèce de monde chelou fantastique là, ça avait l'air amusant ça. Un petit monde médiéval. Et non, on saura jamais.
Faible
d'édition. Moi je vais vous parler d'une série d'animation, c'est Star Wars Tales of the Jedi qui contient 6 épisodes de 15 à 20 minutes. C'est sorti le 26 octobre 2022 sur Disney+. Ça parle de plutôt ces 6 courts-métrages qui permettent de plonger dans les vies de 2 Jedi bien différents, Ahsoka Tano et le Comte Dooku. Tous deux mis à l'épreuve, ils vont être amenés à faire des choix qui détermineront à jamais leur destinée. C'est vraiment... Je l'avais pas lu, il est nul comme synopsis. c'est une super surprise. C'est si cool de voir une série d'animation avec autant d'ambition. Je m'attendais pas à ça. On est très très loin de Clone Wars. Même ça se rapproche. Le plus c'est que ça se rapproche à la fin de Clone Wars. Voilà. Où c'est un peu plus dark. C'est pas dark, c'est un peu plus mature. On est vraiment à l'opposé de Star Wars Resistance.
Mais c'est quand même de l'animation classique. C'est pas genre c'est... animation japonaise comme ils avaient fait.
Non, c'est de la 3D. C'est pas exactement comme Clone Wars, mais c'en est pas loin. Parce que comme on voit maintenant les poussées avec The Bad Batch, si on compare, on voit qu'on est un poil plus vers Rebels, un fin mélange entre Rebels et Clone Wars. Voilà. Les histoires racontées sont passionnantes parce qu'en fait c'est des courts métrages presque en fait à chaque fois qui sont pratiquement indépendants les uns des autres. Il y a très peu de dialogue, c'est aussi presque contemplatif. Et comme le disait le synopsis, on s'attarde sur la chute du Comte Dooku et les différents épisodes de la vie d'Ahsoka. Et justement, c'est un reproche que je peux faire à la série, c'est qu'en fait, elle est faite pour les fans. C'est que du lore, en fait. On raconte que du lore. Et par exemple, Mathilde qui ne regarde pas activement ce qui se passe hors des films, et The Mandalorian.
Je pense que si l'autre série.
Je pense que si d'un coup elle regarde cette série, elle ne va rien comprendre. Absolument rien. C'est vraiment une série qui est faite pour les fans, et voilà.
Mais d'ailleurs, il y a une série juste sur Ahsoka normalement qui arrive.
Oui. Oui. Et l'année prochaine. Et autrement, il y a un truc qui m'a énervé. Bon, ça, c'est moi quand je fais des blocages. C'est que il y a un épisode où Ahsoka apparaît et où, par rapport aux coiffures, je ne sais pas quand situer cet épisode. Parce que il y a les longueurs de cheveux correspondent pas à quel moment on est censé être par rapport à ce qu'on a vu. Bref, ça m'énerve parce que je suis perdu et j'arrive pas à trouver de réponse sur Internet. Mais voilà, pour l'ambition du projet, c'était trop bien, j'ai adoré. Voilà.
Ça donne envie.
En plus, ça se regarde très vite.
Mais oui, mais la fin du mois a été chargée.
Je comprends. Damien, tu peux nous parler d'une série maintenant?
Alors malheureusement, du coup, si j'en parle maintenant, je vais déroger à la règle qui fait que je dois plus en parler plus tard.
Mais oui, je m'en suis rendu compte, mais j'ai pas voulu lui dire.
Mais comme j'ai pas beaucoup de séries, peut-être que je peux quand même le faire.
Vas-y, pire, tu n'en parleras plus. Ou alors tu en parleras à la dernière saison.
Rapidement. Oui, voilà, c'est ça, je peux faire comme ça. Et bah du coup, c'est The Wire. J'ai regardé la saison 1 et une partie de la saison 2. La saison 1, il y a 13 épisodes d'environ 55 minutes, voire une heure parfois. C'est pas du tout sorti en 2022, mais en 2002.
Ah oui,
vraiment, c'est vieux. Et c'est disponible sur MyCanal et peut-être d'autres choses. J'ai un synopsis très court. Quand la police s'efforce de démanteler un réseau tentaculaire de trafic de drogue et du crime à Baltimore.
Baltimore.
Parce que globalement, c'est une série policière donc, qui prend place à Baltimore. Il y a beaucoup d'écoute. C'est un petit peu là-dessus que se base l'intrigue. C'est à une époque où il n'y a pas encore de téléphone portable. Donc c'est assez cool parce qu'ils utilisent des cabines téléphoniques, ils utilisent des beepers pour communiquer. Il y a vraiment un truc old school qui est assez marrant. Et en dehors de ça, ce qui fait que c'est bien, c'est surtout que les acteurs sont vraiment trop cool. Il y a Idris Elba qui doit être dans un de ses premiers rôles qu'il doit avoir début de la vingtaine, je pense. Dominic West, qui est un acteur anglais que je ne sais pas si j'ai déjà vu ailleurs, mais c'est un peu lui le rôle principal, on va dire. En tout cas, c'est lui qui déclenche toutes les intrigues à chaque fois. Il est vraiment trop cool. Le scénario, il est incroyable. C'est très beau, bien filmé. Je réfléchissais à quoi ça me faisait penser, mais peut-être à des films un peu de gangsters des années 2000. Mais l'exemple que j'ai en tête, je m'en souviens plus. C'est un truc de Jim Jarmusch avec un espèce de samouraï des temps modernes.
J'ai aucune ref.
Ouais, pardon. Et pour autant, c'est jamais trop romancé que le côté voyou-brigand, on va dire, et c'est pas non plus manichéen. Les flics sont un peu des losers parfois, et les gangsters sont gentils aussi en dehors de leur profession, on va dire.
Gangstérité.
Oui, c'est ça. Et en plus, il y a Lance Reddick, qui est le chef d'unité dans Fringe, qui est jeune là-dedans, donc c'est cool. Il a un côté autoritaire naturel qui marche
une
trop bien.
Une série qui ne se trouve nulle part sur aucune plateforme.
Il y avait l'intégrale l'autre jour à Easy Cash.
C'est vrai.
Ouais, mais il faut pouvoir lire des DVD. Et en personnage trop cool aussi, il y a Omar. Alors malheureusement, je me suis renseigné sur l'acteur. Il est décédé et c'est un peu triste parce que vraiment, il est décédé d'une overdose alors qu'il joue clairement quelqu'un qui... qui pique de la drogue à des méchants pour la redonner, ou en tout cas l'argent de la drogue à des méchants pour la donner aux gens pauvres des quartiers. Donc ça m'a fait de la peine de voir qu'il était mort à genre 50 ans.
Ah oui?
Ouais, assez jeune. C'est un petit peu la personne que l'histoire te met en personne que tu vas bien aimer, parce que lui, pour le coup, il est pas ultra manichéen. Il fait des trucs dégueux, mais que à des bâtards. Donc
ça passe mieux. De comment il s'appelle,
Robin Desbois?
Non, celui qui tue des gens là, Dexter.
C'était vrai.
Oh là là, oh là là.
Oui, c'est un peu ça, ouais. Mais ouais. Voilà.
Ok.
C'est vraiment très bien, franchement.
J'ai regardé des images et effectivement, c'est très 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 2002.
Ouais.
Ça transpire de 2002. Mathilde, tu peux enchaîner avec une autre série du passé.
Attends. Non, c'est pas passé, c'est nouveau. Enfin, c'est pas vieux.
Oui, Ça se passe dans le passé.
Ah, ça s'appelle L'Impératrice.
T'as raté la transition.
C'est pas grave.
Ça s'appelle L'Impératrice, c'était la saison 1 que j'ai regardée, qui fait 6 épisodes de 57 minutes. C'est sorti le 29 septembre 2022 et c'est dispo sur Netflix. Cette mini-série va se concentrer sur la période qui a immédiatement suivi la rencontre entre les monarques Élisabeth, qui est Sissi, et François-Joseph, l'empereur. Du coup, j'avais regardé une série qui s'appelait Sissi, il y a genre quelques mois, qui était sur Salto.
Qui était trop bien.
Qui était vraiment trop bien. Et bah, c'est un peu la même chose, hein. Je vous avoue que c'est la même histoire, c'est pas très étonnant.
Mais j'ai vraiment cru qu'elle re-regardait la série pendant un moment.
Je me suis trompé.
Donc, il est fort possible, même tout à fait normal, enfin, c'est sûr que je confonde un peu les deux, que je m'en mêle les pinceaux. Mais je vais essayer de réfléchir, de penser que à la version de Netflix. Alors, la version de Netflix va moins loin dans l'histoire. Elle s'appuie essentiellement sur la rencontre des monarques. Donc ça, déjà, voilà. Alors que celle de Salto, on était beaucoup plus loin.
Est-ce que ça a un rapport avec le dessin animé ?
Non. C'est l'histoire.
C'est vrai qu'il y avait un dessin.
Mais oui.
Mais sinon, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, les costumes. J'ai trouvé ça grandiose. Vraiment, c'est trop beau. Enfin, la version de Salto était vraiment déjà trop belle, mais là on est vraiment.
Il y a un intérêt à regarder les deux.
Un cran dessus. Non.
Bah, enfin, non.
Non, mais je veux dire, vu que tu dis que ça raconte un peu la même histoire,
bah,
et que c'est moins poussé.
C'est pas raconté de la. Enfin, il y a un peu des différences, mais ça suit l'histoire, sauf que par exemple, la version Netflix est plus lente parce qu'elle fait 6 épisodes et on est toujours qu'au début. Alors que la version de Salto, je crois que c'était 7 épisodes. Et par exemple, Sissi avait déjà fait plusieurs fausses couches et tout ça, ce qui n'était pas arrivé. Ou je crois qu'elle avait déjà eu un bébé et il était décédé, ce qui est là, on n'en est pas du tout là. Donc là, c'est plus lent. Et je trouve que ça s'appuie plus sur Sissi, en fait. On oublie un peu tous les trucs qu'il y a autour et on se concentre vraiment sur l'actrice. Et principalement sur comment le peuple la voit. Du coup, il y a des scènes, par exemple, où elle va à la rencontre du peuple, tout le monde la touche. Enfin, je crois que la série se termine par, en gros, où elle annonce au peuple qu'elle est enceinte. Avant de l'avoir annoncé à son propre mari, qui, lui, voulait l'expédier je ne sais pas où, parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'il voulait d'une impératrice. D'accord. Et hop, la saison se termine. Après, niveau histoire, oui, c'est similaire. Hein. La première saison, c'est pas très étonnant. C'est exactement. Ça retrace la même chose, quoi. C'est historique, donc on va pas écrire n'importe quoi. Mais j'ai trouvé ça sympa. Par contre, je sais pas du tout s'il y aura une suite, parce que ça a été commandé comme une mini-série. Et donc, pour l'instant, c'est marqué comme terminé. Donc, je ne sais pas.
Et ça a une vraie fin ?
Non, c'est ouvert, quoi. Mais c'est historique, donc. Ça peut être juste un souhait de la personne qui l'a fait de parler que de cette période-là, tu vois, par exemple.
Pour la suite, on va écouter une bande-annonce.
Je vais à Stanford l'année prochaine.
Sérieux, tu devrais fêter ça. Enfreindre quelques règles, on peut pas dire que ça fasse partie de tes habitudes.
D'accord, mais c'est quoi mes chances ?
C'est pas aussi simple que ça.
Vous pouvez me répéter le nom scientifique ?
Un carcinome papillaire de la thyroïde.
Un cancer de la thyroïde.
Je suis le docteur Georgina Stanton. Bienvenue à Brightcliff. Chaque jour passé ici est déjà une victoire.
Bienvenue. Ça fait combien de temps que vous êtes là ?
Moi, ça fait 4 mois. 5.
3. 3.
63 jours, 17 heures et 11 minutes.
On compte pas les minutes.
Je vais mourir. On va tous crever ici.
C'est une clinique ? Mes parents m'ont dit que c'était un pensionnat.
B, c'est pour le sous-sol ?
Non, elle veut pas.
Il en faut plus que ça pour me faire peur.
Non, non. Attends, non. Je te déconseille d'y aller.
C'est quoi, ça ?
Je dirais que c'est un genre de club.
L'idée, c'est de vous retrouver à la bibliothèque tous les soirs pour...
invoquer des fantômes.
Se raconter des histoires.
Non, les fantômes, c'est plus classe.
Première participation officielle au Midnight Club, Bianca.
Il y a un nombre incroyable d'histoires qui circulent sur cet endroit. Des histoires sur des pensionnaires qui pensaient qu'ils allaient mourir et qui sont pas morts.
Je veux vivre.
Et on ne peut pas
changer ce qui doit arriver.
Je m'en fous du prix à payer. S'il y a un moyen de tous nous sauver, je serai prête à détruire la planète.
Vous avez juste besoin d'arrêter tout ça. Vous n'avez pas le droit de nous mettre en danger. Le danger est réel. C'est la mort spirituelle qui vous attend.
À ceux d'avant, à ceux d'après, à nous aujourd'hui et à ceux de l'au-delà.
Encore là.
C'est une série qui fait peur.
Ah oui, très peur.
Alors vas-y, tu peux nous en parler.
Alors c'est The Midnight Club, c'est la saison 1 qui fait 10 épisodes d'environ 55 minutes, qui est sortie le 7 octobre 2022 sur Netflix, et c'est donc une nouveauté du mois d'octobre. Dans un hôpital réservé aux adolescents atteints de pathologies graves, les malades se retrouvent chaque soir à minuit pour partager des histoires effrayantes, des histoires inventées, des histoires réelles et parfois un peu des deux. Une nuit, ils décident de faire un pacte. Ils se promettent qu'après leur mort, ils donneront un signe aux autres, depuis l'au-delà. La plus incroyable des histoires peut alors commencer. Guérison, départ soudain, histoire d'amour, révélation. Trois petits points.
C'est Secret Story. Et la fin, c'est vraiment Secret Story.
Du coup, The Midnight Club, c'est une série adaptée du roman Young Adult du même nom, écrit par Christopher Pike, dispo chez Hachette depuis 2021, en France en tout cas. Cette série, franchement, j'étais un peu triste parce que Netflix n'avait pas sorti la série mercredi durant le mois d'octobre.
Oui.
Mais elle a sorti The Midnight Club et ça rattrape un peu le mauvais pas, tu vois. Je me dis, bon, ok.
Netflix est un peu pardonné.
Tu te rattrapes, Netflix. J'ai trouvé que cette série, elle était vraiment parfaite pour le mois d'octobre. Genre, vraiment, elle faisait peur, mais pas trop. Et en même temps, parfois, elle faisait méga trop peur, tu vois. Genre, je me contredis, mais les épisodes n'étaient pas égales, tu vois. Certains épisodes, ça faisait pas trop peur. Et puis, t'en avais d'autres où c'était... toutes les deux minutes, j'étais obligée d'avoir les mains devant les yeux parce qu'en fait, il y a des... Comment t'appelles ça, toi ? Tu sais, les trucs où ils te font crier parce que ça fait boum !
Des screamers.
Ah, il y avait plein de screamers. Et je déteste ça. Après, au bout d'un moment, tu t'habitues. Mais le premier épisode, surtout, est plein de screamers. Et ouh, ça fait trop peur.
D'ailleurs, sinon... en parlant de ça, pardon, j'ai vu que Netflix s'est félicité sur Twitter d'être la série... qui a battu le record du monde de screamer dans
celle-ci.
Oui.
Oui, bah c'est pas
je trouve
étonnant.
Que moi quand je regardais un peu de loin, ça me saoulait, je dis mais c'est trop facile de faire peur en fait quand tu mets des screamers partout
oui,
tout le temps.
Oui, mais il y en a pas enfin autant dans le premier épisode, il y en a vraiment partout et après ça se calme et je trouve qu'après à partir du deuxième le premier épisode est pas ouf, mais à partir du deuxième épisode la série elle s'arrange, tu vois, enfin ils racontent chacun des histoires. En gros, les ados se regroupent à minuit et racontent des histoires. Et chaque histoire est différente. Et chaque histoire fait peur. Et au-delà, l'endroit où ils sont, qui est cet hospice de malades où ils vont sûrement mourir parce que c'est un hospice pour fin de vie, est aussi flippant. En fait, il se passe des choses dans la réalité et en même temps dans les histoires qu'ils racontent. Certains des faits qu'ils racontent dans l'histoire sont vrais, d'autres sont faux. Des fois, tu sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Enfin, je trouve ça vraiment intelligent, en fait, comme série. J'ai pas lu le roman, mais ça m'a donné envie de voir comment c'est écrit. Et enfin, j'ai trouvé ça cool. En plus, l'hospice où les ados sont est vraiment trop beau. Les décors, en général, de toute façon, de cette série sont ouf. J'ai aimé le récit, les histoires qu'ils racontent. Et aussi, le truc qui est trop bien, c'est qu'on reconnaît vraiment la patte de Mike Flanagan qui a bossé sur The Haunting of Hill House. La maison, vraiment, enfin, tu vois en fait, tu vois la patte. Et sur certains jeux de caméra, la façon dont c'est filmé et tout, enfin, on retrouve vraiment et ça fait grave peur, quoi.
Je fais un erratum. C'est pas des screamers, c'est des jumpscares, en fait, déjà.
Ah, bah
je,
voilà.
Je dis des mots bêtes. Mmh. Et alors, exactement, c'est le nombre de jumpscares dans un épisode.
Le premier.
Je sais pas, mais il y en a eu 21 dans un seul épisode.
Je pense que c'est le premier.
Peut-être.
Parce que ça le premier joue vraiment avec ça, en fait. Genre, tu te retournes et bim. Après, je sais qu'il y a une fois où j'ai regardé un épisode quand j'étais au boulot le midi toute seule. J'étais toute seule dans la boutique et je regarde un épisode et j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Tu peux pas regarder ça. T'es obligé de regarder ça à certains moments de ta journée en plein soleil et tout, quoi. Là, j'étais juste en fond de la boutique. Il y avait la déco d'Halloween avec un squelette en face de moi et j'ai cru que j'avais peur de baisser, tu vois. Mais vraiment...
Pas très chaleureuse la boutique.
J'ai peur de tout, mais en fait, plus le temps passe, plus je me dis j'aime bien avoir peur, mais pas trop. Et je trouve que The Midnight Club correspond à ça, en fait. A réussi à me faire peur, à me poser des questions et tout, mais pas trop. Et en plus, ça pose vraiment énormément de questions sur l'acceptation de la mort, parce qu'on parle quand même d'adolescents qui vont mourir. C'est pas juste. Et tu les vois un peu se débattre avec ça, essayer de tout faire pour survivre, même des choses complètement folles, donc genre des rites sataniques, des trucs comme ça, de vraiment essayer tout et n'importe quoi, et puis à un moment donné se rendre compte qu'en fait il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas d'échappatoire, et qu'en gros bah, ils ont beau être jeunes et à venir et juste commencer leur vie, bah elle va s'arrêter et profiter le plus possible et de ce qu'ils ont, et voilà quoi, ils n'ont pas le choix. Et c'est vachement poétique, c'est méga triste, mais c'est très poétique. Et le moment que j'ai préféré dans la série, je crois que c'est il y a le moment où notre héroïne, en fait, lit un poème à son père et lui dit, enfin à son père adoptif, et lui dit en gros, je veux que tu lises ce poème le jour de mon enterrement. Et je crois que c'est un des plus beaux poèmes que j'ai jamais entendu. Il était horriblement triste, mais magnifique, trop trop magnifique.
Ok. Damien, tu vas nous dire si la série que t'as regardée faisait peur, mais pas trop.
C'était Le Bureau des Légendes, j'ai vu les deux dernières saisons, et qui sont toujours disponibles sur MyCanal. C'est toujours sorti au début en 2015, c'est toujours avec Mathieu Kassovitz et Sarah Giraudeau. Et je vais pas refaire le synopsis des... parce que ça reviendra à raconter trois saisons qui viennent de se passer, ça serait assez dommage pour les gens qui veulent regarder. Mais il y a des nouveaux persos qui arrivent, il y en a certains qui s'en vont parce que malheureusement l'intrigue fait qu'ils doivent s'en aller. Il y a des gens qui meurent.
Ah, ok. C'est ça le...
Bah, ça reste une série, comment dire, d'espionnage, mais du coup il y a quand même des vrais enjeux avec des vrais des gens qui meurent, et voilà. Je vais répéter encore une fois qu'il y a des gens qui meurent. Non, mais en gros on était beaucoup au Moyen-Orient les trois premières saisons, et là on va en Russie et c'est très cool.
Ah, le pif,
voilà, le bon moment. Non, c'était avant les épisodes, c'est sous Hollande que ça se passe.
Oui, mais bon, déjà la Russie commençait à craindre un peu du...
Bah, il y a des anciens du KGB et tout, c'est good vibe only.
Ça a l'air.
Oui, par contre, la fin est vraiment triste, mais sinon c'était très bien.
La Terre explose.
Oui,
voilà.
Du coup, on est tous tristes parce que tout le monde meurt.
Donc il n'y aura pas de suite.
Non, Mathieu Kassovitz est décédé.
Ok, on va terminer les séries.
Déjà ?
Avec...
Pas beaucoup.
Un gros morceau.
Oh.
Il s'agit du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, la saison 1, sortie le 2 septembre 2022 sur Prime Video. Elle compte 8 épisodes de 60 minutes.
Moi, j'en ai vu un.
Ah bah, tu pourras en parler. Mais 8 fois moins que Dame Mathilde et moi. Le résumé est le suivant. Divers personnages, connus et inconnus, doivent faire face à la résurgence du mal en terre du milieu. Des profondeurs des montagnes de brume aux forêts majestueuses du Lindon, du Linden.
Du Lindon.
Vincent Lindon.
Du Vincent Lindon.
Du Lindon.
De l'île des rois de Numénor aux contrées les plus éloignées du monde, ces royaumes et personnages vont forger un héritage qui demeurera bien après leur disparition. Alors, qui veut commencer ?
Moi, je veux bien, j'ai une question. Ouais, est-ce que vous pensez que les elfes, en fait, le royaume où ils retournent, là,
c'est
juste...
la mort.
Oui, voilà. Okay. Non, mais moi j'étais là-dedans aussi, bah, c'est le paradis leur
truc. C'est très bien parce que on peut déjà dériver là-dessus. C'est que effectivement dans la série on dirait vraiment que c'est
mais dans les livres pas du tout.
mais moi j'ai pas lu les livres, mais dans les films, bah vraiment on dit à Frodon, tu vas pouvoir vivre beaucoup plus longtemps avec ses blessures là-bas. Si on est en train de le mitonner et lui dire, tu vas mourir, frérot. Mais... autant qu'il reste avec Sam un petit peu après.
Je sais
quoi.
Plus avec qui j'en ai parlé, mais apparemment ça serait peut-être une question de droit d'auteur. Parce qu'ils n'auraient pas eu les droits du... Apparemment, il y a un livre ou une partie d'un livre qui parle de cet endroit, spécifiquement, et ils n'auraient pas eu les droits.
C'est pas le Silmarion ?
Si.
Les ayants droit veulent plus adapter trop, et du coup, le Silmarion est...
Bon, en même temps, c'est pas adaptable. C'est, oui, c'est un recueil de poésie, le truc. C'est...
Oui, mais je crois que du coup, c'est là où tu as peut-être des informations sur à quoi ça ressemble et comment ça... Enfin,
bah oui, mais là-dessus... du coup, autant pas faire un truc bizarre où il chante et ça part dans les nuages. Blanc, quoi. Mais oui, c'est
ouais,
trop...
Ouais, ouais. Mais moi, je sais plus à qui j'en ai parlé, mais quelqu'un m'a dit que c'était ça. C'était parce qu'ils avaient pas tous les droits, en fait. Et ouais, du coup, possible. Ils pouvaient pas montrer ou juste essayer de montrer à quoi ressemblait cet endroit parce que ça serait trop
galère. J'avais
eu cette
info quand... le troisième épisode du Hobbit était sorti et que Peter Jackson avait dit bah non, c'est la dernière fois que je fais des films sur le Seigneur des Anneaux. On lui a dit oui, mais le Silmarion fait oui, mais on n'a pas le droit de le faire. Donc du coup, ok.
Donc possible fait. Autre chose à dire ?
Moi, bah le premier épisode, il était pas fou, c'était lent et...
Ah bah tu vas voir qu'on peut généraliser ça. Hein.
Ouais, c'était lent. Alors, ce qu'ils appellent des loups, c'est pas des loups, ils sont dégueulasses, ces animaux chelous.
Ah, ouais, désolé, c'est peut-être une traduction mauvaise. Ils disent wolf en anglais aussi.
Ils disent wolf en anglais. Quand est-ce qu'il y a des loups ?
En fait, c'est.
Premier épisode, il y a des enfants qui cueillent des baies là.
Ouais, ah oui, des loups, c'est pas des loups.
Des très grosses baies.
Des grosses bêtes.
Bon, après, c'est des hobbits, donc ça peut être des chiens.
Ah oui, non, mais ils sont juste dégueulasses. Ils ont pas des formes de loups. Oui, mais j'avoue, c'est. Je sais pas, c'est pas si grave.
Non, c'est pas grave, je pense que c'est pas le truc le plus important. Mais sinon.
Et pourquoi est-ce qu'il se fait bastonner par des petits enfants alors que c'est censé être le pays de la mort ?
Quoi ?
Au tout début, les petits enfants, ils sont trop relous là. Les petits enfants elfes.
Ah oui ? Ah oui, elle se fait bizuter, ouais.
Mais oui, c'est
ouais,
trop bizarre.
Ils sont trop méchants.
C'est pour montrer qu'elle a des traumas.
Oh bah quand même.
Ça fait très écriture.
Son bateau, il a coulé, du coup.
Ouais, je sais pas trop.
Ça fait très écriture américaine, quoi. Il faut que l'héroïne, elle ait des traumas.
Je sais pas.
Elle peut pas juste être déterre dans la vie.
En tout cas, moi, si je devais dire quelque chose, j'ai aussi trouvé ça super lent. Je crois que j'ai vraiment apprécié la série sur les deux derniers épisodes.
Ah.
Donc, vraiment pour dire que c'est vraiment complexe. Parce que c'est là où t'as un peu les retournements de situation. Là où tu te dis, ah bah voilà, il se passe un truc ouf. Et où ça a du sens. Mais du coup, en fait, j'ai vraiment l'impression que cette saison 1, c'est une énorme introduction. Vraiment. C'est l'introduction énorme de ouf qui te présente tous les petits persos, tous les petits trucs et qui te dit « Attention, écoute bien, tout ça sera important pour la suite. »
On dirait vraiment un chapitre 1 d'un bouquin, en fait.
T'as vraiment l'impression que c'est pour les enfants, quoi.
Il résume des milliers d'années en super peu de temps.
Alors ça, si j'ai bien compris, c'est que dans les œuvres de Tolkien, tout ce qui va se passer pendant les Anneaux de Pouvoir s'étale sur des milliers d'années.
Oui, c'est ça.
Mais dans la série, c'est condensé en quelques...
Moi, j'avais lu ça aussi, qu'en gros, c'est condensé sur peu de temps, alors que ça se passe sur très longtemps.
Moi, je suis embêté avec cette série.
Ah, il y a un autre truc.
Ah !
Après, je m'arrête. Et je trouve que des fois, les distances, c'est pas ça aussi.
Oui,
ils...
c'est vrai.
En gros, ils ont pas envie. Ils ont pas envie de dire combien de temps ça met pour aller quelque part. Mais donc, en gros, je sais jamais où est-ce qu'on est sur la carte des fois, et je sais pas du tout la distance.
Mmh. Bah, c'est une île.
Ouais, mais ça dépend.
Ouais, mais c'est
parce que toi tu dis c'est une île, mais il y a un moment ils sont sur une autre île, alors plusieurs
en
îles,
fait,
c'est où, c'est quoi
ce qui est, je pense, ce qui à un moment pose problème, c'est que t'as des gens qui partent de Numenor, t'as l'impression qu'ils naviguent pendant des jours, donc ça c'est logique.
Et après ils prennent des chevaux.
Et
là ils sont au galop.
Les chevaux sont aux stéroïdes de ouf. Et qu'en 20 minutes,
8000 ans.
Ils arrivent paf à un village. Alors qu'on n'a jamais cru comprendre que ce village est au bord de la mer, déjà.
Ah, oui. Non, alors que je pense qu'en vrai, ils mettent peut-être 2 mois à y arriver. Ou peut-être
après,
2 semaines.
C'est peut-être juste une ellipse.
Non, mais du coup, en plus,
oui,
ça n'a pas de sens.
Que...
Ça n'a pas de sens de faire genre courir les chevaux. En gros, c'est un espèce de plan drone où tu vois les chevaux qui courent au triple galop pendant genre 3 ou 4 minutes. Et en gros, ils te font croire que depuis qu'ils sont sortis du bateau, les chevaux font ça, tu vois. Mais non, ils sont morts, ces chevaux.
C'était déjà un peu le cas dans... Les chevaux, ils étaient déjà un peu magiques, hein, dans le Seigneur des
Anneaux. Non, mais là, c'est pas possible parce qu'il y a qu'un elfe.
Mais je trouve que même là, ça colle pas.
Si, c'est les elfes qui parlent aux chevaux.
Moi, je vais faire que ça. Avec cette série, je vais faire que la comparer au film. Mais dans les films, on les voit, en fait, voyager. On voit plein de paysages, donc on comprend... Même si on n'a aucune notion de temporalité, on ne sait pas si en fait l'aventure elle se passe sur une semaine ou sur trois ans. On comprend qu'il y a eu des kilomètres et des kilomètres et qu'ils ont traversé des paysages. Enfin, voilà, ils ont traversé toute la Terre du Milieu presque, on dirait. Là, comme les paysages se ressemblent beaucoup et qu'il n'y a pas autant de variations...
Deux champs.
Bah, on est souvent dans des champs ou dans des plaines ou dans des forêts. Ouais. On est rarement dans des montagnes ou voilà. Donc du coup, on sait même pas, on a aucune notion de temporalité en fait.
Je sais pas, un peu en soi, mais enfin les hobbits, ils vont bouger parce qu'en fait, ils sont pas encore installés
oui,
dans un village.
Nomades, là,
oui, ils sont nomades, donc en gros, ils migrent. Et du coup, même eux pendant leur migration, tu sais pas combien de temps ça dure. Enfin, moi, j'ai cru que ça avait duré genre une semaine, quoi. Mais en fait, non, ça doit durer plusieurs mois, en fait. Et on sent, enfin, la temporalité est pas très bien gérée du tout, je trouve. Ouais.
Donc, moi, je suis embêté avec cette série parce que d'un côté, j'ai bien aimé l'ambition visuelle. C'est clairement une ambition cinématographique. Ça couche visuellement Game of Thrones. Après, les budgets sont incomparables.
Bah, c'est pas comparable, on en parlera le mois prochain.
Les décors sont plutôt variés. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que je viens de dire le contraire. Il y a plein de personnages. Il y en a peut-être trop d'ailleurs, parce que j'en ai confondu pas mal.
Ah oui, des fois, il me disait, mais c'est qui ça?
Mais vraiment, il y en a deux ou trois. Je fais, mais qui est qui là? Je comprends rien. C'est des mecs blancs barbus avec les cheveux mi-longs. Je fais, c'est des Aragorn-like à chaque fois. Qui sont ces gars? Chaque fois, je le confonds.
Vous n'avez pas l'air petit éthique.
Par contre, j'ai aimé que ça ne cherche pas à ressembler à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Les hobbits n'ont rien à voir. Les elfes n'ont rien à voir. J'ai remarqué une notion, un truc très important, très important dans les looks, c'est que dans le Seigneur des Anneaux, tout le monde a les cheveux longs. Alors que ici, il y a des coiffures très très courtes. Genre l'elfe principal, je ne sais plus son nom, il a les cheveux très 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 courts, quoi. À la tondeuse.
Alors moi, je n'aurais pas dit que c'était lui le principal, mais oui, le deuxième principal.
Moi, bon, l'elfe qui est avec les mecs, avec les hommes, pardon.
Avec les hommes.
Mais comme Mathilde et Damien, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Je trouve ça en plus hyper prétentieux comme série.
Ah ouais?
Ouais. Et c'est avare en scène mémorable. Franchement, il y a une scène marquante, c'est la scène du volcan, donc je n'en dis pas plus.
Stop.
Parce que Damien n'a pas vu, je dis juste la scène du volcan.
Oui, c'est la seule qui m'a plu aussi.
Et sinon, il n'y a pas de scène de bataille, quoi. Et je ne demande pas le gouffre de Helm, en fait. Au moins une petite bagarre qui vaut un peu le coup. Non, il y a une bagarre qui dure 15 minutes et encore, on trouve un moyen d'esquiver avec des astuces, des stratégies.
Il y a une bagarre dans l'épisode 1. Qui dure vraiment pas longtemps. Ils se battent contre un troll.
Oui, ouais, mais je trouve que... Ouais, bah, c'est tout.
Ah oui, ouais. C'est vrai, je l'avais oublié.
Et en fait, ce qui fait que... J'ai l'impression... Ce qui fait qu'il n'y a pas de bagarre, c'est parce qu'il n'y a pas assez de figuration. Dans Le Seigneur des Anneaux, dans les films, il y avait des milliers de personnes qui faisaient de la figuration. Là, il n'y en a jamais assez, donc tu ne peux pas avoir une bataille crédible sans figuration. Donc, voilà. Et je disais que c'est très prétentieux parce que ça veut jouer les mystères dans tous les sens. Beaucoup des mystères. Mais ça a un syndrome un peu à la Westworld où tout est artificiel et il y a des mystères qui... Tu sens que c'est... On va pas vous dire tout de suite ce que c'est, nanana,
ouais,
comme ça.
Le problème, c'est que on avait deviné certains trucs dès le début.
Les trois quarts des mystères, je les ai devinés, quoi.
Dès le début, et du coup, quand on te l'a dit, t'es... Ah, ils ont vraiment fait ça. Bah non, parce que c'est pas cool en fait. Et puis ça, il y a des choses, ça a pas de sens aussi. Enfin, je trouve ça a pas de sens.
Je peux, comme on a dit qu'il y avait pas les réponses, je peux donner mes théories et c'est sûr que ça va être ça. Les hobbits qui migrent, c'est évident que au bout d'un moment et ça va être, on va créer Hobbitbourg, c'est sûr.
Que bah, ils disent les noms hein, à un moment donné. On sait famille de hobbits c'est.
Oui, mais je veux dire là. C'est sûr que les hobbits qu'on voit, quand ils vont dire on se pose ici,
faut pas dire à Damien,
ça va être
Hobbitbourg.
Non, mais on le sait jamais.
Non, on le sait jamais.
Donc je peux le dire. Voilà, ça va être, on va créer au Bitbourg. En fait, on va faire que ça. Cette série ne va faire que dire. Bah, en fait, cette réponse à ce mystère-là, bah, c'est pour raccrocher au film.
Oui, mais
et ça va être que ça. Et c'est hyper chiant.
Est-ce qu'on a envie d'avoir un préquel comme ça? Enfin, tu vois, au pire, ils auraient pu dire, bah, on va vous faire une série, ça
mais
sera
au départ,
un préquel.
C'était ça qui était annoncé. Non, c'était pas ça. Un préquel, justement, c'est un truc. Ça se passe tellement de temps avant qu'il n'y a rien qui va se raccrocher au film. Et bah déjà.
Ça se raccroche.
On parle beaucoup de Sauron, quoi.
Oui. Bah.
On parle beaucoup de Sauron. Alors que j'imagine que même si Sauron, ça a été peut-être le plus grand bad boy de la Terre du Milieu.
Bah non, justement, c'est le deuxième.
Enfin, oui, parce qu'il y avait l'autre.
Celui d'avant, il est bien pire, normalement.
Oui, c'est ça.
Comment il s'appelle ?
Morgoth.
On parle aussi de Morgoth.
Mais voilà, je trouvais que ça n'avançait pas et ça m'a saoulé. Enfin, je suis assez déçu en fait. Et en plus, ce qui n'a pas aidé, c'est que TMC a diffusé les films, la trilogie pour surfer un peu sur la hype de la série. Bah, en fait, c'est des chefs-d'œuvre, quoi. Donc du coup, j'ai regardé le 2. C'est ce que j'aime le moins de la trilogie, le 2. Et c'est un chef-d'œuvre. Donc du coup, même si j'étais un peu vraiment, j'avais dit allez vas-y, je compare pas, j'essaye pas de faire, ben y a pas photo quoi. Voilà, on a terminé les séries, on peut passer au film. On va commencer avec un film que Mathilde a regardé. Ah bon, on regarde une bande-annonce.
Non, il n'y a pas de bande-annance.
Eh bah, ben, on
ça
va.
Ça copier-coller raté.
Eh bah, ben, Mathilde va nous en parler.
Je vais vous parler de L'école du bien et du mal qui est sortie le 23 octobre. Donc, c'est il n'y a pas longtemps. Il fait 2h29, dispo sur Netflix. Et c'est également l'adaptation d'un roman young adulte qui est en plusieurs volumes, je ne sais pas combien exactement. Et c'est une nouveauté. C'est un film réalisé par je ne sais plus qui. Par Paul Feig.
Est-ce que c'est un rapport avec Kevin Feige?
Je ne sais pas. Non. Avec deux actrices principales qui s'appellent toutes les deux Sophia avec différentes écritures. Sophia Willy et Sophia Anne Caruso. Et il y a également d'autres personnes. Voilà.
Okay. Non, c'est vraiment sur des informations. Ah, oui.
Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Sophie et Agathe sont meilleures amies. Elles sont
destinées qu'en plus, elles s'appellent Sophie.
Oh, en plus, elle s'appelle Sophie dedans. Non, mais ça, ça n'en finit plus.
Mais Agathe, c'est plus différent de Sophie que Sophie.
Sophia. Sophie et Agathe sont meilleures amies. Elles sont destinées à intégrer l'école du bien pour la première avec Cendrillon et Blanche-Neige et l'école du mal pour la seconde.
Oui, j'avais vu la bande-annonce,
cependant, à la suite d'un sort, leur destinée respective va basculer et leur amitié sera mise à rude épreuve. Voilà. Alors moi, j'ai lancé ce film parce que j'étais un peu... je voulais savoir ce qui se passait parce que j'ai vu la bande-annonce et j'étais un peu perplexe. Et bah finalement j'ai beaucoup aimé, ça ressemble un peu au film que Disney Plus faisait là pendant un moment, je sais plus comment il s'appelait.
Désenchanted.
Ouais, un peu un truc comme ça mais en mieux.
De Matt Groening.
Non, c'est pas ça alors.
En mieux les effets.
C'est les enfants des méchants là.
Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Ben là on a encore des enfants du méchant, genre on a.
Il était une fois.
On a l'enfant du Capitaine Crochet, on a l'enfant de la méchante.
Ah oui, c'est vraiment proche à ce point là quand même.
Ouais. Et du coup, ils sont dans l'école du bien et du mal. Et bien évidemment, la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut tout résumer dans la vie au bien ou au mal, ou est-ce qu'on peut tout mélanger, et est-ce que des personnes bien peuvent être aussi mal, et tout ça, et tout ça.
Descendant.
J'allais dire divergente, mais c'était pas ça, tu vois.
Non.
Mais moi, j'ai bien aimé ce film. Niveau effets spéciaux, ça fait un peu Impact After Effects qui est sorti, mais ça passe. Vraiment, pour ce genre de film, c'est kitsch. De toute façon, on le sait dès le départ que ça va être kitsch. Et j'aime bien. J'ai passé un super bon moment. J'ai trouvé ça cool.
Super bon moment.
Moi, j'ai passé un bon moment, ouais. J'étais et puis il y a un moment où en plus il y a Sophie qui du coup elle veut être une princesse et se retrouve dans l'école du mal. Elle s'émancipe, elle coupe ses cheveux, elle met une super robe.
Pourquoi elle coupe tout le temps leurs cheveux quand elle s'émancipe?
Et puis je crois qu'elle est, je sais pas. Et puis elle met une super robe et puis là elle traverse tout le château sur une musique de comment elle s'appelle? Billie Eilish, je crois. Et c'est vraiment trop stylé. C'est trop stylé. Moi aussi, j'avais envie de faire un défilé avec elle.
Voilà. De couper tes cheveux.
Non, je pourrais les couper encore plus courts. Allons-y, essayons. Tout est possible. Non, mais j'ai bien aimé. J'espère qu'il y aura une suite parce que vu qu'il y a plusieurs livres et qu'à la fin, il y a un cliffhanger pour la suite. Et petit clin d'œil, il y avait un des acteurs qui joue dans Shadow and Bones aussi dedans. Mmh. Et j'ai trouvé ça amusant. C'était...
Ah oui, c'est vrai.
C'était Jasper. Oui, ouais. C'était Jasper.
Il joue deux rôles même.
Il joue deux rôles parce qu'il joue le rôle de... Il joue des jumeaux. Voilà. Et c'était les magiciens qui ont créé l'école du bien et du mal. C'était trop cool. Mmh. Et il y a un petit combat. Ouh, trop fort.
Un combat After Effects. Un peu sympa.
Ouais, un gros combat After Effects. Voilà.
Il y a vraiment un pack feu et un pack...
Et glace. Étoile.
Étoile.
Damien, tu as regardé un film, dis donc.
Mais tout à fait, j'ai regardé un film qui s'appelle Le Monde de Dory. C'est la suite du monde de Nemo. Parce que dans
je
le monde
pas...
de Nemo, il y a
je l'ai
Dory.
Pas vu non plus.
Depuis le cinéma. Je l'ai pas vu depuis le cinéma.
Moi, je l'ai jamais vu, je crois.
Ah, donc tu l'as vu une fois.
Oui.
Attends, si, escapeur tout le temps la boule.
Mais là, c'est dans Nemo déjà.
C'est... Ouais, c'est...
Ah, ça, ouais, c'est l'histoire. Plus de... C'est l'histoire de Dory.
Oui.
Oui. Du coup, c'est... oui. Attends, tu veux dire le film ou le fait qu'elle perde la boule?
Le fait qu'elle perde la boule.
Oui, mais le film aussi. Et bah du coup, c'est un film qui est sorti en 2016, qui dure 1h45, qui est dispo sur Disney+, comme Le Monde de Nemo. C'est réalisé par Andrew Stanton, qui a peut-être réalisé Le Monde de Nemo, peut-être pas, je ne sais
peut-être
pas.
Peut-être ou peut-être pas.
Peut-être ou peut-être pas.
C'est très précis.
La voix en VO, c'est Ellen DeGeneres, je ne sais pas comment on prononce, et je ne sais pas qui a fait la voix en VF.
J'ai un trou de mémoire, c'est pas Valérie Le Mercier.
T'es sûr que c'est pas l'autre?
Okay.
Parce qu'il y a que deux meufs, donc c'est soit Valérie Le Mercier, soit l'autre.
Non, je pensais à, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Céline Montsara. Non, c'est pas du tout Valérie Le Mercier. C'est même pas un star talent. C'est la l'actrice qui double Julia Roberts en général. Voilà,
ok,
c'est ça.
D'accord. Alors le résumé. Dory est un poisson chirurgien bleu qui est séparé de ses parents alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. En grandissant, Dory les cherche en vain, puis les oublie à cause de ses troubles de la mémoire immédiate. Et donc, on a envie de faire un petit rappel de Nemo pendant les 5 premières minutes. Enfin, du monde de Nemo, le film. Avec un poisson clown. Et ensuite, on embraye sur l'histoire de Dory qui va chercher ses parents au fur et à mesure que sa mémoire revient peu à peu parce qu'elle a des petits tricks. Donc, j'ai bien aimé. Ça se regarde bien. L'histoire est cool. Il y a plus d'animaux rigolos que dans le monde de Nemo. Il y a une baleine myope, c'est drôle.
Ça, c'est Kev Adams en VF, de mémoire.
La baleine? Mais c'est une meuf. Ah, c'est peut-être le beluga, lui.
Ouais, il y a Kev Adams dans l'aquarium qui... voilà.
Il y a des loutres qui sont très mignonnes. Il y a un beluga qui a des super pouvoirs.
Il n'y a pas une loutre qui est complètement débile?
Alors, je pense que c'est pas la loutre, c'est un espèce de petit oiseau.
C'est les oiseaux. C'est les oiseaux.
Un petit oiseau.
Un petit oiseau débile.
Qui a des gros yeux bizarres.
C'est un oiseau. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et il y a un poulpe qui a un rôle un petit peu sur la tangente entre est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il l'utilise juste pour obtenir ce qu'il veut.
Il est gris.
Oui. Il est surtout camouflage. Il s'adapte à ce dont il a besoin. Et donc, regardez-le. Et il y a beaucoup de passages avec la voix off du... ça se passe beaucoup dans un espèce de centre aquatique pour réhabiliter les poissons. Et il y a beaucoup de passages où c'est la voix off de Sigourney Weaver qui parle dans le centre aquatique. Et c'est assez marrant du coup parce que les poissons ne comprennent pas que ce n'est pas une vraie voix. Parce que les poissons comprennent la langue des humains dans ce film. Voilà.
C'est Sigourney Weaver en VO.
Et oui, incroyable. Et a priori en VF c'est Claire Chazal,
oui,
de ce que j'ai vu.
Oui.
Je me suis dit que ça devait être pas mal en VF aussi. Mais vraiment, en VO, il y a un moment donné où le poisson entend Sigourney Weaver qui dit « Venez avec moi » ou un truc comme ça. Et du coup, t'as Dory qui la suit en mode « Oui, vas-y Sigourney, dis-moi quoi faire. » Ok. C'était drôle.
Ça me donne envie de le regarder. J'avais bien aimé. Les gens l'aiment pas trop, mais moi, je l'avais bien aimé.
Je suis même pas sûr de l'avoir vu, en fait.
Eh bah, ben, regarde-le. Il y a une fin apocalyptique. Avec un accident et tout.
Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Enfin, que l'on le regarde. On a déjà terminé les films. On peut passer au documentaire. On va commencer ces documentaires avec la partie 2 de Orelsan Montre jamais ça à personne, qui est sortie sur Prime Video le 13 octobre 2022. C'est donc une nouveauté. C'est composé de 4 épisodes de 45 minutes. Mathilde, est-ce que tu veux commencer ?
Oui, bon, ça va être court. J'avais bien aimé la saison 1, j'avais trouvé ça cool, il y avait plein de choses qu'on ne savait pas, qu'on a découvert, et du coup je trouve ça plutôt intéressant d'avoir fait une saison 2 qui est plus courte et qui se focalise sur la création du coup de Civilisation, qui est le dernier album d'Orelsan, et de la façon dont ça a été créé, donc un peu...
Est-ce qu'on voit des moments en studio ?
On voit beaucoup que ça, ouais. Mmh. Voilà, donc moi j'ai trouvé
Est-ce
ça
qu'on voit des moments en concert ?
Des bribes, genre des flash-forward.
Et il y a aussi des petites interviews d'artistes qui connaissent Orelsan, donc c'est sympa, on apprend des choses. Après moi, j'ai peut-être été un peu... Enfin, ils ont peut-être ajouté, pas un peu plus de pathos, mais ils ont un peu parlé plus de sa vie perso dans cette partie-là que dans la première partie. Et après, j'ai trouvé ça peut-être un peu... Bah, je pense que c'est peut-être le public qui demandait ça aussi,
ça
tu vois.
Ça parlait pas mal de sa vie perso. Bah,
j'allais
il parle
la
de sa grand-mère.
Saison, c'est que sa vie perso.
Oui, mais... Enfin, la première partie. Tu... Ouais, je sais pas. Mais
là, est-ce ça que parle ça parle de la meuf, de la photographe, pardon, qui a pris en photo
la
poule
non Si, on la voit.
Hmm. Oui, mais ça parle... Elle apparaît juste, mais...
Non, on la voit dedans, mais elle apparaît... Ouais,
en fait, toute la partie... Fin de l'album, genre les trucs, bah on fait les photos, la
ça
promo.
Ça passe vite, ça.
C'est vraiment rushé à la fin de la fin
c'est des plus la création des morceaux,
oui,
quoi, qu'on
ça.
Nous d'accord. explique.
Parce qu'en fait, on va dire que toute cette partie-là, bah, ils savent faire et ça déroule. Mais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses à raconter sur le premier jour où on dit, bah, où on les voit travailler sur l'album jusqu'à la fin de l'enregistrement de la dernière chanson.
Et
là, il se passe un milliard de trucs.
Une grosse partie Covid aussi où tout le monde était confiné, donc bah, il fallait aussi. Ils en ont parlé, quoi. Irrémédiablement, ils étaient confinés, donc l'album a été créé dans cette situation de confinement.
Confinage,
quoi.
Ok.
Ce qui est d'ailleurs, je crois que les deux premiers épisodes entiers sont consacrés à ça et c'est très drôle. Parce que tu vois que. Orelsan galère d'être seul. Bah, y a son frère qui est là, mais son frère filme en fait. Donc il ne l'aide
pas.
Il y a un moment où il dit vas-y, mais je vais écrire.
Ça donne rien de bon.
Ça donne rien du tout.
C'est étonnant.
Mais donc, il est seul et il n'a pas ses acolytes pour l'aider et l'inspirer. Quoi. Donc, c'est
pas de sidekick.
C'est ça. Moi, j'ai adoré retrouver cette suite. Cette fois, on n'a plus le coup de génie d'avoir 20 ans d'images d'archives, donc ça m'inquiétait. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir ? Mais en fait, la narration est toujours aussi prenante parce qu'il y a plein de twists, il y a plein de drames, enfin, c'est vraiment une série. Il y a vraiment, je crois que c'est la fin du troisième épisode où ça parle de notes et de cloud. Pff, c'est. Je dis, mais c'est pas possible, c'est écrit, c'est obligé. La vie est scriptée. Et puis la forme du documentaire est cool parce qu'elle est hyper moderne. Il y a plein d'infographies, de séquences surcutées, ça dynamise le montage. C'est pas genre juste une séquence d'images
à suivre.
À suivre comme plein de making-of de ses défauts. Donc c'est vraiment bien.
Et est-ce que des fois il s'arrête et il y a Orelsan qui dit « Alors à ce moment-là, et avec une voix off ?» Parce que des fois ils font ça dans les making-of de films.
Ouais mais là non, parce que bah, déjà c'est toujours Clément qui fait la voix.
Il y a un peu ça des fois, genre quand ils peuvent pas filmer pour X ou Y raison. J'aurais dit, alors là, on ne pouvait pas se filmer parce que, bah, par exemple,
coup,
la personne ne voulait pas qu'on la filme. Et du coup, il trouve d'autres façons de montrer les choses.
Du coup, on pourrait presque quand même un peu apparenter ça à du remplissage un peu facile. Dans le sens, on a un truc à raconter, mais on n'a pas d'image. Mais comme il faut qu'on fasse un 4 fois 45 minutes, eh ben, on va le raconter.
Il faut quand même que l'histoire...
Oui, mais ça a du sens de le raconter.
Oui, bien sûr.
Et voilà, c'est pas qu'un making-of, en plus c'est vraiment rigolo parce qu'on a l'impression d'être pote avec Aurel San et ça c'est marrant. Et puis ce qui était très drôle, c'est qu'on a... Pas du tout, j'allais dire une anecdote fausse.
Bah, on a regardé, on a regardé le reportage.
Et t'as croisé Aurel San dans la rue.
Non, on a
c'est
regardé.
Fou, il était à Saint-Brieuc.
On a regardé le doc et la semaine d'après, on a été au concert en fait.
Et c'était bien.
Et c'était plutôt cool.
Mais t'étais là.
Et en plus, un jour avant notre concert, il y a eu la sortie de
la phase B.
Pas la phase B de l'album, mais du truc en plus. De la réédition de l'album. Mmh. Donc du coup, on a eu droit à... C'était un peu comme une surprise. Et en même temps, dans le documentaire, et bon, en fait, il y avait des choses qu'on avait déjà entendues dans le documentaire qui étaient dans la réédition. Donc c'était un peu un clin d'œil pour ceux qui avaient vu le docu. Oui. C'était plutôt sympa, je trouve.
Ça, pour le coup, bon, on s'éloigne un tout petit peu de notre ligne éditoriale. Mais il y a plein de gens qui passent à côté de la réédition parce qu'ils disent... J'ai l'impression qu'il faut avoir vu le documentaire pour comprendre toutes les chansons de l'album. Par exemple, La France, qui est une chanson hyper drôle, mais qui est un peu nulle. Bah, y a plein de gens qui le prennent juste en mode, c'est une chanson un peu nulle. Mais elle est hyper drôle quand on a vu le documentaire et qu'on se dit... Lui, il l'a fait. Tu vois qu'il a envie de la faire et tout et tout. Et quand Scred l'écoute,
Scred,
fait, mais c'est de la merde, c'est nul, et que c'est pour ça qu'elle s'est fait tège. Et à mon avis, il savait qu'en la mettant dans le doc, les gens allaient trouver ça marrant de la réentendre, et que Aurel San avait vraiment envie de la mettre, voilà. Mais donc du coup, c'est presque un outil de compréhension de l'album, de la réédition, c'est un objet un peu marrant là-dessus.
Ouais, okay. C'est bien fait. Ça explique la création des chansons, quoi. Oui. Et même d'autres chansons, j'ai trouvé aussi. Et c'était cool. J'ai bien aimé.
C'est le principal.
Voilà, et Damien, tu vas terminer les documentaires.
Mais tout à fait.
Pardon. Avec un truc qui n'est pas vraiment un documentaire. C'est ce que tu as écrit.
Ah oui, mais attends. J'ai regardé Notre langue au chat, ça dure 1h07, c'est sur Netflix. C'est sorti en 2022, c'est sorti il n'y a pas longtemps, je n'ai pas la date précise. C'est fait par Andy Mitchell. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Dans ce documentaire captivant et attendrissant, des experts analysent le comportement des chats pour dévoiler les véritables capacités de ces félins, toujours à l'affût.
Oh bah alors.
Eh oui. Mais en vrai, du coup, c'est pas un vrai documentaire dans le sens animalier, en mode « alors on va vous expliquer comment ça marche les chats ». C'est plus, on fait intervenir des gens qui sont soit des scientifiques dans le domaine des chats quand même, soit des gens qui sont des dresseurs de chats qui font des spectacles. Ça existe. Ça n'a pas l'air facile comme métier, mais ça existe. Et c'est très rigolo. Il y a plein de ralentis sur des chats qui font des trucs marrants et du coup, ça donne envie de les regarder. Il y a plein d'explications de comportement, mine de rien, qui sont quand même intéressantes. Et c'est assez... ça rentre pas beaucoup dans du détail scientifique, c'est pour ça que je dis que c'est pas un documentaire animalier. Mais par contre, si on aime bien les chats, c'est cool à regarder. Voilà.
Et t'aimes bien les chats ?
J'aime pas trop mal les chats.
Pas trop mal.
Pas trop mal. J'en ai un chez moi.
Merci.
C'est pas j'en ai un chez moi, c'est t'habites chez un chat plutôt.
Oui.
Oui.
D'accord. Tu veux... Tout ça pour cette blague.
Oui.
Oh là là.
Je me suis fait interrompre pour ça. Mais elle était marrante, donc ça va.
De rien.
On va enchaîner avec... Elle anime les mariages, les bar mitzvah, les baptêmes.
Donc et aussi les croisières.
Son blog sur Mathilde fait des blagues.
.blogspot.
Oh, on avait la même blague. .blogspot.com ou sur son Facebook. Mating fait des blagues tirées du 8 officiel.
Vous savez que ça va trop loin.
Écoute.
C'était drôle, mais j'avais tout gâché.
Bon, d'accord.
Un peu dur.
On va écouter la bande-annonce du sujet du mois maintenant.
Chers nouveaux voisins du 657 boulevard. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Connaissez-vous l'histoire de la maison ? C'est moi qui ai l'honneur de veiller sur la maison.
Ce message ne sera pas le dernier. Je suis le veilleur. votre maison est mon obsession. Et vous l'êtes donc vous aussi. Qui suis-je ? Vous n'en avez peut-être pas encore peur, mais ça viendra. Pourquoi ne donnez-vous pas à la maison ce qu'elle veut ? Du sang neuf ?
Tu peux nous protéger, toi ?
Déménager ici pour se sentir en sécurité. Mais c'est l'inverse qui se passe. Je me suis jamais senti moins en sécurité qu'ici.
Je ne crois pas que vous soyez en danger. C'est juste une blague.
C'est pas un canular. Fan. Fais-le.
Je veille toujours. À leur place, je serai mort de peur.
Chaque fois que je trouve une nouvelle piste, il faut que ça tombe sur quelqu'un d'autre.
On serait devenus amis, c'est sûr.
Je ne vais pas vous quitter des yeux.
Si vous tenez vraiment à votre famille, vous devez quitter cette maison.
C'est ça l'exemple que tu veux donner à nos enfants ? Si une personne décide de nous terroriser, on doit s'enfuir ?
Jamais de veiller.
Un événement important va se produire.
Il est grand temps que tout le monde sache ce qui se passe dans votre maison.
Fous.
Le veilleur.
C'est le veilleur, c'est The Watcher. Oh là là, vraiment Jean-Michel transition. c'est une mini-série de Ryan Murphy et Ian Brennan qui est avec Naomi Watts, Bobby Cannavale et Noma Dume.
Salut la team, j'ai vu la série
bah
The
alors,
Watcher sur Netflix.
Jean-Michel, merci beaucoup, mais non.
Salut la team.
Et non,
oh mais c'est incroyable.
Je peux finir
oui.
Ma fiche. Et Noma Dumezweni, voilà, pardon. Ça, c'est elle compte 7 épisodes de 45 à 50 minutes. C'était sorti le 13 octobre 2022 sur Netflix. Et si vous ne l'avez pas compris, c'est l'adaptation d'un fait réel ayant eu lieu dans la maison du, accrochez-vous, 657 boulevard à Westfield, dans le New Jersey. C'est une histoire narrée dans l'article de Cut par le journaliste Reeves Wideman dans le magazine New York. J'ai lu l'histoire vraie telle qu'elle est rapportée par le West France.
Le 13 octobre, c'est la naissance de Slimane.
Le chanteur.
Que des anecdotes de naissance, oui.
Et c'est effectivement la même histoire, c'est tout pareil. À deux, trois trucs près, le prix de la maison change, il y a trois enfants dans cette famille et pas deux, etc. etc. Et quand même, évidemment, la série a romancé toutes les péripéties et a ajouté des personnages et des intrigues. Mais, dans la vraie vie, on ne sait pas qui... Apparemment, ça...
Ils n'ont pas identifié le Watcher.
The Watcher s'est contenté d'envoyer des lettres. Il n'y a eu que des lettres. Il n'y a pas eu de bail chelou dans la maison. Il n'y a eu que des lettres. Mais on ne sait pas qui c'est.
Mais là, il y a des bails chelous dans la maison.
Ça se trouve,
oui, mais dans la vraie vie, il n'y a pas les bails chelous.
Ah,
alors, c'est un des enfants qui n'était pas content d'avoir déménagé.
Donc, c'est romancé de ouf.
Genre, il n'y a pas les tunnels et tout.
Il n'y a pas de tunnels. Il n'y a pas de... y a pas quelqu'un qui tue un furet dans la maison.
Non. Non, il y a des menaces de
juste
je vais tuer vos animaux par contre.
Y a
dans
pas...
la lettre, il y a eu des menaces de on va tuer vos animaux et il y a des votre maison garde des secrets. Donc
y a...
toi, peut-être il y a des tunnels et le Watcher il sait.
Il y a pas des escaliers qui se soulèvent
Non, oh, ce plan final est terrifiant.
On se croirait dans c'était quoi ? Dans Parasite. Vraiment.
Oh là là, m'en reparlez pas.
C'est la même scène que t'en parles.
M'en reparlez pas. Les yeux là. Ah,
c'est la même scène.
Le gars de Parasite là, c'est terrible.
Non, ça fait vachement moins peur. Il n'y a pas une meuf qui était dans le lit du mec en plein milieu de la nuit là pour faire genre c'était sa maîtresse alors que c'était personne.
Ah oui.
Tu parles de Parasite là ?
Non, je parle non, pas de Parasite.
Je me suis dit, j'ai raté un truc dans Parasite.
Et donc, le synopsis de The Watcher est la série suit l'histoire vraie d'un couple marié qui, après avoir emménagé dans la maison de leur rêve dans le New Jersey, est harcelé par des lettres signées par un harceleur nommé The Watcher. C'est vraiment ce que je viens de raconter en fin de compte.
Bah, tu vois, je trouvais que cette série faisait pas trop peur, et plus là j'étais en train de raconter tout ce qui s'est passé dans cette maison, plus je me disais, quand même. C'est quand même pas la joie, cette histoire.
Oui. Est-ce que vous avez vérifié derrière vos miroirs s'il n'y a pas un trou ?
Non, oui. Mais le dernier jour, on a...
Oui, elle a dit oui.
Ah non, mais on sait qu'il n'y a pas de trou.
Ouais, le dernier jour, on a regardé la série, il est parti sortir slow. Et moi, j'avais ouvert la lumière dans la... partout. Et j'étais assise sur le lit et j'attendais qu'il rentre parce que je n'osais plus bouger, tu vois, j'étais genre... Non,
moi, ce qui me rassure, c'est que je sais qu'on a tout pété dans l'appart. Donc, ouais,
t'as pas de doute
s'il
sur
y avait
des
astuces. Trucs chelous, on les aurait vus.
Ouais, mais j'avoue qu'ils n'ont pas cherché grand. Eux, ils n'ont pas cherché beaucoup quand ils ont acheté cette maison.
Ah bah non. Mais là-dessus, j'ai bien aimé. C'était plutôt bien fait parce qu'on... On leur dit il y a vraiment 1 milliard de gens qui veulent acheter la maison. Donc, traînez pas. Donc, du coup, dans la précipitation, voilà. Qui veut commencer à parler ?
Bah, si tu veux, vas-y.
D'accord.
J'ai trouvé que c'était une série cool.
Attends, tu dis vas-y, mais tu vois.
Si j'avais compris
oui,
que c'était...
vas-y, genre moi, je vais...
Tu te parlais à toi-même, du coup.
Ah. Plus rien ne va. Non, mais désolé. Vas-y, je te laisse y aller.
Ah, donc c'est... Oh là là. Cette fois, le vas-y, c'est pour que j'y aille. Alors, c'est vraiment très prenant. La mécanique fonctionne. Bien que, personnellement, j'aurais enlevé 1 ou 2 épisodes. Je crois que à l'épisode 5, je t'ai dit, ça serait bien si c'était la fin, là, par exemple. Ça fait... voilà. Le côté whodunit fonctionne pas mal parce qu'on soupçonne tout le monde. On a l'impression de jamais trouver l'identité du Watcher et c'est ce qui se passe au final. Même si par contre j'avais deviné une partie des révélations finales, ça c'est dommage parce que on la voit un peu venir. Et visuellement c'est ok, c'est pas une cata, c'est pas non plus fantastique. Il n'y a pas des jumpscares dans tous les sens, parce que ça aurait pu être la solution facile. Mais bref, c'est très 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 convenu. Et justement, ça aurait pu être l'occasion de faire des trucs terrifiants et d'avoir, je sais pas, un effet claustrophobique. Ou... Ben non, il n'y a rien, il n'y a vraiment aucun effet visuel pour faire la peur. Par contre, l'aspect psychologique, il est un peu faible aussi. Ça ne retourne pas la tête, on ne devient pas parano. Alors j'ai vu des gens sur Twitter dire, je suis dans le métro, j'ai l'impression que tout le monde m'espionne, tout le monde veut me tuer.
Ouais, moi,
je pensais que la série, vraiment, elle nous faisait avoir peur de la terre entière. Et je trouve pas. Moi, je panique pas dans ma maison.
T'habites pas dans une maison ?
Non, mais je panique pas dans mon appartement.
Tout le monde habite dans une maison. La maison, c'est là où tu vis.
Oui, mais
et je déteste pas tout le monde. Et le problème, je trouve que c'est un peu que les voisins et les voisines sont assez caricaturales. C'est le carnaval du cringe, en gros. C'est une surenchère de voisins et de voisines débiles. Qui va être plus dérangé que celui d'avant. Mais bon, c'était bien pour Halloween. C'est pas une foirade, mais c'est pas fabuleux non plus.
Moi, je te trouve super dur. Genre,
avec le recul, ouais.
Je trouve vraiment que
je suis comme ça.
Je trouve vraiment que t'es très dur. Moi, je trouve que
t'as des avis tranchés.
Et que si psychologiquement ça fonctionnait plutôt bien parce qu'en fait tu te rends.
Tiens, ça parce qu'il est très peur.
J'ai pas. Enfin, il y a des trucs qui font peur. Enfin, il y a quand même plein de choses qui se passent dans cette maison. Il y a un furet qui meurt. Il y a quand même un des voisins. À un moment, il y a le gamin qui ouvre le monte-charge. Il y a le voisin qui est dedans. Enfin, s'il te plaît, c'est pas le truc. Tu ouvres le monte-charge. Il y a ton.
C'est quelque chose qui arrive à un moment.
J'ai dit que le côté whodunit fonctionnait bien.
Il y a plein de trucs vraiment flippants qui se passent. Mais en dehors de ça, en fait, le truc qui est.
Ah, mais elle va être d'accord avec toi.
Non, le truc qui est. Enfin, il y a eu des meurtres aussi dans cette maison. Le John. Mais moi, John, il m'a terrifié le long.
Ça, c'est vraiment un truc hyper cool, John.
En fait, il y a un mec, il a tué sa famille dans la maison. Et en fait, il a disparu. En fait, il s'est enlevé de toutes les photos. Et en fait, il habite toujours le quartier. Et il est protégé par les voisins. Et tout le monde sait qu'il est là et personne ne dit rien. Et Enfin, c'est, en fait, il y a tellement de non-dits. En fait, c'est ça, en fait, moi, qui me fait grave flipper, c'est qu'à la fin, t'as toujours ce petit groupe d'individus, là, qui se regroupe et qui dit « Nous sommes les protecteurs de la maison, nous sommes les protecteurs de toutes les jolies maisons du quartier, nanana. » Mais ils sont tous barjots. Mais c'est pas le barjot, genre... Pour eux, ils croient qu'ils font le bien, tu vois. Il y a un tueur en série, il y a un prof d'architecture un peu bizarre...
Qui dit que ta déco est moche.
qui faisait envoyer des lettres aux enfants, à ses enfants au lycée pour dire « Écrivez des lettres d'amour aux maisons », en fait. C'est ça qu'il leur faisait faire, donc un peu chelou aussi. Il y a les voisins, bah, ça, les deux voisins bizarres, là, celle qui a des tresses et son frère qui est psychologiquement dérangé parce qu'il est quand même tombé sur des gens morts. Il est trauma à cause du John, faut le dire. Il a trouvé des cadavres, le pauvre gosse, traumatisé.
Après, je veux pas dire, dans Dolmen, il y avait la même chose.
Je sais pas de quoi tu parles.
C'est vrai,
France 3. La saga de l'été sur TF1.
Non, mais franchement, il se passe plein de trucs. Et en fait, le côté qui est vraiment étrange psychologiquement, c'est que le mari, dans l'histoire, en fait, se met à... Il rentre dans le gang, en fait. Enfin, il se met à aller voir la maison, même quand il habite plus là, il continue, en fait, à être... psychologiquement.
La scène finale est vraiment. Et peut-être la seule scène qui a un impact psychologique.
En fait, c'est qu'ils essayent de te dire que, vu tout ce qui s'est passé dans sa maison, quand il habitait là, bah, pour lui, en fait, ça a eu un poids sur lui et qu'il devient. Pas accro, tu vois, mais. Il pourrait être. Ça pourrait être lui, en fait, le nouveau watcher pour les prochains voisins, en fait. Parce que c'est un espèce de cercle vicieux où, en gros. La maison, elle t'horrifie et elle te fait peur incroyable, mais en même temps, elle te fascine. Et en fait, ça a un effet fascinant, en fait. Même moi, la maison, elle est incroyable. Dans toutes les scènes, par contre, la baraque, elle est trop belle. T'as envie d'aller dedans aussi, de vivre dedans. C'est des trucs... Enfin, je trouve ça trop bien. Mais c'est psychologiquement vachement dérangeant. Ouais. Bah après, c'est du Ryan Murphy. Hein. Enfin, je trouve que ça fonctionne bien avec ce qu'il fait habituellement.
Mais quand je disais que psychologiquement, c'était pas... C'était pas à la hauteur de mes attentes, c'est que je pensais que ça retournait la tête.
Oui, t'avais l'impression que c'était The Haunting Hill House qu'on avait vu, ou là,
non,
du coup,
que
tu ressortais...
C'était de l'horreur un peu... Pas gratos, c'était de l'horreur bien fait, mais c'était de l'horreur. Moi, je pensais
ouais, mais
que c'était un thriller
qui
perturbait psychologiquement.
Moi, je trouve que ce qui est perturbant psychologiquement, c'est que t'as pas de réponse, en fait. C'est toujours le gros vide de « on vous dira pas ». C'est à vous de, de trouver vos propres réponses et du coup, bah, c'est.
Ouais, mais c'est pas non plus autant perturbant qu'un vrai gros cliffhanger où tu t'attends pas. Et...
J'essaie de chercher un exemple d'un truc qui perturbe beaucoup, là j'en trouve pas, mais.
Vidocq.
J'ai pas vu.
Du coup, je vais pas spoiler.
Non, mais j'ai déjà vu des trucs qui m'ont spoilé Vidocq, la fin de Vidocq, donc je sais qui est le méchant.
Mais Damien, il a pas du tout vu le sujet du mois, du coup.
Non.
Oh là là.
Ah, il a tapé le cran.
Non.
Le cran.
Mais moi, ça me fait trop peur.
Mais non, franchement, ça, c'est déjà tout regardé. C'est que ça allait. Hein. Ça faisait beaucoup moins peur que
tu
The
regardes
Midnight
plus
Club.
De trucs flippants que moi. Bah, j'ai pas regardé The Midnight
ça faisait...
Club.
Moi, je trouve que ça m'a vraiment fait beaucoup moins peur que The Midnight Club. Et même psychologiquement, bah, ça faisait peur, cette histoire de maison et tout. Mais The Midnight Club, le message est beaucoup plus... Enfin, des ados qui meurent super jeunes, moi, de toute façon, c'est...
Moi, mon max en film d'horreur, c'est Rec. Attends, ça s'appelle Rec.
Mais c'est du. C'est
ouais, Rec, ça fait trop peur.
Hein.
Moi, je peux pas regarder Rec. Je me rappelle, j'ai regardé au lycée, ça me faisait trop peur.
Là, on n'est pas sur le même truc. Là, on est sur un thriller
psychologique.
On n'est pas sur.
Ouais, je sais pas si c'est pas pire. Je sais pas trop.
Voilà, c'est tout ce que j'avais
à dire.
On parle
d'un thriller psychologique, par exemple, American Psycho, ça perturbe beaucoup plus. Parce qu'on sait pas. En fait, il faut regarder limite le film une deuxième fois pour. Comprendre qu'il est totalement dérangé et que toutes les atrocités qu'il fait, il les fait pas. La première fois, tu penses juste que c'est un taré qui tue des gens, et la deuxième fois, tu fais non, en fait, il fait pas. Bah, en plus, on a
Spoil.
Vu. Netflix a fait un post drôle là-dessus où tu vois Patrick Bateman qui marche avec des écouteurs et Netflix dit
ah,
qu'est-ce qu'il écoute.
Ah oui,
voilà.
Qu'est-ce qu'il écoute. C'était ça. Moi, je croyais que c'était Batman.
Non, je t'ai dit c'est Bateman.
Parce qu'il marquait Patrick Bateman. Il me dit, mais non, c'est pas Patrick Batman, c'est Batman. Désolé.
Et je regarde.
Plein Stephen King aussi qui sont plus.
Oui,
qui retournent la tête. Dans les vieux, pas dans les trucs un peu plus récents.
Alors sur internet, il n'y a rien, mais dans The Watcher, il y a justement le John, le tueur en série. C'est sûr que c'est inspiré de Xavier Dupont de Ligonnès. Vraiment ?
Est-ce qu'il y a une terrasse ?
C'est un non, horrible c'est personnage.
C'est le seul truc, c'est le seul truc non, qui n'est pas pareil. C'est, pas... c'est qu'en gros, si enfin... vraiment, je vais vous raconter l'histoire de John et vous allez comparer. C'est un gars qui a une vie normale, une vie de famille, qui se fait à moitié attrapé par une église. Il tue toute sa famille sans raison. Puis après, il va voir un match de basket avec son fils, puis il le tue après. Mmh. Et il disparaît. Vraiment. À part qu'il enterre pas,
il y a des similitudes.
À part qu'il enterre pas sa famille sous une terrasse. Mmh. Je trouve que c'est exactement l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès.
Mais il y a un côté cul en plus dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qu'il n'y a pas.
Ah ouais?
Ouais.
Je suis pas un expert. J'avais noté un autre truc aussi. Il y a un personnage qui s'appelle Karen. Et c'est une Karen.
Est-ce que c'est. Ouais, voilà. C'est une caricature ou pas?
C'est totalement une Karen. Parce que je l'avais dit à Mathilde, mais j'étais plus capable à ce moment-là de définir totalement ce qu'est une Karen. Et tu te rappelles l'agent immobilière. Alors, d'après Wikipédia, une Karen est un terme péjoratif pour décrire une femme blanche d'âge mûr, de classe moyenne, qui s'insurge de tout, veut parler au directeur et perpétue un racisme systémique revendiquant des droits supérieurs aux autres.
C'est elle.
C'est elle.
Mais c'est même pas juste raciste, c'est tout ce qui globalement les emmerde. Des fois, t'as des vidéos.
James scare de slow.
J'ai trop peur. C'est pas slow. Edouard, bah, c'est quoi, mon micro.
James scare d'un fantôme.
Mon micro.
Le câble.
Le câble du casque m'a touché la main.
Oh là là.
Heureusement que ça t'a pas fait trop peur.
Et autrement, les Karen sont tout le temps blondes.
C'est vrai.
Comme Karen dans la série.
Mais du coup, t'as vraiment des vidéos des fois où elle s'énerve parce que tu t'es garé sur la place de parking qu'elle a décidé que c'était la sienne dans un supermarché et tu vois la vidéo sur TikTok où ils insistent jusqu'à ce que les gens se barrent, mais ça n'a aucun sens. Il n'y a même pas de... Ce chien est très mignon.
Bah là voilà, c'est une Karen. Je trouvais ça marrant. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur The Watcher ?
Non, c'est une bonne série, mais un petit peu trop répétitif une fois qu'on avait compris ce qui allait se passer. J'ai bluffé.
Franchement, Damien, tu devrais la regarder comme punition.
Écoute, j'essaierai. Voilà.
On va passer aux recommandations et aux nouveautés du mois de novembre. On va laisser le micro à Mathilde qui va nous parler des recommandations et des nouveautés de novembre.
Oui, tout à fait. Alors, pour novembre, ça continue. Y a My Hero Academia, la saison 6, avec un épisode par semaine sur Crunchyroll. Il y a Spy X Family, la saison 1, deuxième partie, je crois. C'est comme ça que ça se dit, j'ai écrit saison 2, mais c'est pas ça, c'est la saison 1,
oui,
deuxième,
c'est vrai, c'est
partie.
La deuxième partie. Ouais.
Un épisode par semaine, je crois que c'est tous les samedis ou dimanches, je ne sais plus.
C'est le dimanche, des fois le mercredi, c'est très bizarre le rythme.
La joie. Sur Crunchyroll, j'ai pas encore repris. Et il y a Chainsaw Man également, la saison 1, un épisode par semaine sur Crunchyroll. En fait, il y a que des animés en ce moment.
Ouais, moi je regarde d'autres, mais...
Il n'y a pas Andor ?
On en parlera plus tard.
Bah je sais pas,
si, moi je regarde
peux pas
Andor,
savoir. Il y a Andor aussi,
c'est
alors
tous
avec...
Tous les mercredis, pour le coup,
tous les
sur
mercredis.
Disney+.
Mais oui, il reste encore 4 épisodes.
Ouais,
bah je savais pas.
C'est bien pour l'instant. Le... Je sais pas si t'as...
Non, on n'a pas regardé,
pas regardé,
alors stop.
Elle veut pas finir She-Hulk.
Mais si,
ah, moi,
je vais
pas
finir She-Hulk
au final.
Mais on passe notre temps à regarder la Starac, faut dire la vérité.
Mais on peut se dégager une soirée pour finir She-Hulk.
On passe notre temps à regarder la Starac.
Et moi, en animé, je regarde aussi Shinobi no Itoki.
Shinobi no Itoki.
C'est pas fou, mais ça se mate. Et Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury.
Oui,
c'est un Gundam, mais qui est récent et qui est vraiment
avec
bien.
Avec des sorcières.
Il n'y a pas vraiment de sorcières. Mais c'est vraiment bien pour le coup.
Mais moi, j'aimais bien les vieux Gundam.
Oui, mais là, il n'est pas vieux, il est récent.
Sinon, c'est nouveau, ça reprend, ça commence... Il y aura le 1er novembre, donc c'est sorti hier, pour la joie de tout le monde, dont moi, Young Royal, la saison 2 sur Netflix. J'ai hâte de la regarder, j'ai pas encore eu le temps, mais je vais me lancer dedans. Je suis trop contente. Le 4 novembre 2022, il y aura, donc dans deux jours, oh, je sais bien calculer, il y aura Enola Holmes 2, donc le film, la deuxième partie sur Netflix.
Pas la deuxième partie.
Bah, le film numéro 2.
Bah, la suite.
La suite du film. Le film numéro 2. Il y aura également Zootopia Plus, saison 1 sur Disney Plus.
Wouhou !
Le 10 novembre, il y aura Warrior Nun, saison 2 sur Netflix.
Il y a une suite à ça ?
Alors, je sais que tout le monde trouvait...
La déception.
Pourquoi tu dis ça ? T'avais même pas regardé.
Ça avait pas l'air bien.
Tu te rappelles pas ? J'avais regardé et j'étais partie pareil en me disant « Ouais, ça a pas l'air bien. » Et finalement, c'était vraiment trop bien.
Ok.
C'était trop incroyablement bien. Je sais plus de quoi ça parle. Je crois que
c'est une non-guerrière, je crois.
Ouais, c'est ça, c'est des non-guerrières. Je crois qu'elles ont des pouvoirs qui viennent des anges et tout. C'était stylé. Je me rappelle plus.
J'ai vraiment juste traduit le titre.
Je me doute. Le 17 novembre, il y aura Dead to Me saison 3 sur Netflix. Je crois que c'est la dernière saison. Ça sera donc le final. J'ai regardé la saison 1. J'ai pas regardé la 2. Il faut que je la rattrape. Mais je regarderai la 3, bien évidemment, après avoir vu la 2.
Oh là là,
il est un peu tard.
Non, non,
excusez-moi. Il y a aussi 1899 qui sort, la saison 1, qui est l'histoire sur un bateau. Mais je ne sais pas trop, je crois que c'est par les créateurs de Dark.
Oui, ça, je crois que ça parle du triangle des Bermudes. Je sais pas, il y a un triangle dans l'eau.
Pas
donc,
du tout maté.
Ok, bah à voir. Il y a. Le premier film de Noël qui débarque le 17 novembre. Christmas with You sur Netflix. Ça a l'air mignon, ça parle d'une chanteuse.
D'accord.
Le 18 novembre, il y aura Il était une fois numéro 2 sur Disney+. Mmh. Le 23 novembre, Bones and All. Ah non, t'as dit que c'était au ciné ?
Ouais.
Alors que je croyais que c'était sur Prime Video. Mais non.
Non, non.
Je l'enlève. Il y aura la série Mercredi, donc sur Netflix, saison 1. Enfin, le 23 novembre, c'est vraiment tard, j'avoue. C'est presque Noël, en fait. C'est totalement Noël. Le 23 novembre, c'est Noël, les gars. Vous êtes trop à la bourre.
C'est vraiment un mois avant.
Il y aura également le film Les Nageuses. C'est un film qui parle de jeunes femmes qui fuient leur pays en guerre et qui se retrouvent en Allemagne, je crois.
Essayé.
Et quelqu'un et une personne monte une équipe pour qu'elle puisse nager au JO, je crois.
D'accord.
Ça a l'air dur comme film, j'ai regardé la bande-annonce. Il y avait l'acteur qui jouait dans le truc avec les zombies et qui ouvrait des coffres-forts.
Oula. Je vois ce que c'est, mais j'ai oublié le titre.
Army of Thieves.
Oui, et bah, il y avait l'ouvreur
de coffres.
Army of the Dead. Vous voyez l'ouvreur de coffres, l'allemand ?
Oui. Bah, oui. Celui qui a un film sur lui, du coup.
Army of Thieves.
Oui, et bah, il joue dedans.
Ok.
Et enfin, le 30 novembre, il y aura la sortie de La Légende, la série la plus attendue.
La Légende, n'en fais pas trop.
La série la plus attendue du moment, Willow, la saison 1 sur Disney+. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Cette série, ce film, c'est un film. Ce film a bercé mon enfance. Quelle plateforme conseillez-vous ce mois-ci ?
Moi, j'ai un mini truc à dire avant la plateforme qu'on conseille. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un film de Jim Jarmusch qui s'appelait Ghost Dog. C'est un vieux film avec Forest Whitaker de 1999. Voilà, c'était pour avoir la référence précise si jamais vous voulez le regarder.
Bravo.
D'accord.
Après avoir regardé The Wire, parce que c'est bien.
Donc, reprenons.
J'ai quand même essayé de rester dans le thème et de trouver un service de VOD qui permette de le regarder. J'ai pas trouvé. Désolé.
D'accord, c'est dommage.
Oui.
Quelle plateforme conseillez-vous pour ce mois de novembre et quelle film, série voulez-vous voir comme sujet du mois ?
Crunchyroll.
Ça, c'est
moi, je conseille.
Non, mais.
J'hésite.
Pour la plateforme Crunchyroll.
Parce que Willow, ça doit être cool. Mais en même temps, sur Netflix, il y a des trucs bien.
Bon, moi, je reste sur Netflix parce qu'il y a quand même. On a oublié... J'ai parlé de The Crow ?
Je crois que t'as sauté
The Crow. Je l'ai sauté. Je l'ai sauté parce que je passe Zootopia en dessous.
Bah, le mois prochain.
Il y a The Crow qui sort également le 9 novembre. Non, donc en gros, oui, Netflix, parce qu'il y a The Crow, il y a les films de Noël,
c'est un film sur les corbeaux.
Il y a Mercredi,
c'est pas mal
ouais.
Non plus, mais...
Et puis, bon, de toute façon, on a Disney+, donc on regarde.
Ah oui, il y a Mercredi. Ah oh, bah, Netflix.
Netflix.
Bah moi Crunchyroll, hein, je regarde 5 ou 6 trucs en ce moment sur Crunchyroll, je vais pas dire...
ça marche.
Mais c'est mon avis après.
Et mais qu'est-ce qu'on regarde
c'est bien.
Comme sujet du mois prochain.
C'est un film ou une série mercredi?
C'est une série.
Mais c'est encore un truc.
Mais c'est très tard. 23 novembre, oui. C'est trop tard.
Bah ah sinon, oui. Ça peut être. Il y a Enola Holmes.
Il y a Enola Holmes, oui, qui est un
moi,
film.
Moi, il faut que je rattrape les deux, mais ça me dérange pas des masses.
Ou sinon, on a le film de Noël, Christmas with You.
Bon, ce serait un peu. Voilà. En vrai, en décembre, donc, je veux bien, mais...
Alors, je veux qu'en décembre, on regarde un film de Noël.
Oui, oui.
Ça marche?
Oui.
Ok. Oui. Vous notez bien, chers auditeurs, ils nous ont dit qu'à Noël, on regarderait un film de Noël.
Donc, on a choisi. Vous êtes d'accord? On a choisi Enola Holmes comme sujet du mois.
Avec Henri Cavill. Oui. Le vrai, pas le sosie qu'ils vont mettre à sa place.
Pas la Yam.
Enfin, le sosie de loin.
Qui lui ressemble pas de ouf.
Le sosie de dos, avec une perruque.
Ils auraient pu prendre sa doublure, genre. Il doit avoir une doublure cascade, il fait plein de cascades dans
non,
The Witcher.
Non, c'est Superman.
Ah oui, c'est vrai qu'il fait beaucoup de trucs en plus, il y a moyen qu'il en fasse beaucoup.
Enola Holmes, avec Molly Bobby Brown.
Ainsi se termine ce 24e épisode du Récapito, déjà. L'année prochaine.
Ça fait 2 ans.
Le mois prochain, on fête les 2 ans du podcast. C'est incroyable.
On va mettre des guirlandes.
On va faire un feu d'artifice.
Ouf.
À la bouche.
Ça va.
Ça. T'as oublié le sifflement.
Au niveau ambition, c'est. Oh, pas mal le sifflement. Là, on dirait que ça s'écrase au sol. Quoi.
C'est une bombe.
C'est vrai que moi j'ai fait un obus.
Toi, tu l'as fait retomber jusque là. C'est l'accident qui a eu cet été.
La reine Maria a décidé que la saison de Noël était ouverte. Donc,
oui.
La semaine, le mois prochain, ça va parler de Noël. Damien n'a pas la ref.
Non.
On lui montrera après.
Voilà, merci Mathilde.
Merci à vous.
Merci Damien.
Ah bah de rien.
Merci.
N'hésitez pas à nous retrouver comme d'habitude sur nos réseaux Insta et Twitter et sur le blog plaid.fr. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles.
En plus, il commence à faire frais, c'est le bon moment pour mettre des plaids.
Mais
bon,
oui,
pour l'instant,
ça.
Nos transitions sont pas ouf alors.
oui. Mettez plein d'étoiles. C'est gentil. On se retrouve le mois prochain. Bonne continuation, bonne journée, bonne soirée. Bisous.
Bye.
Ciao.